Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, l'horreur à Châteauroux où le jeune Mathis, 15 ans, a perdu la vie samedi, poignardé par un jeune Afghan de 15 ans, aidé par sa mère qui a elle aussi été interpellée. C'est la stupeur et l'indignation sur place. On rejoindra nos équipes qui ont recueilli plusieurs témoignages d'habitants sous le choc. Comment expliquer un tel niveau de sauvagerie? Pourquoi la justice n'a-t-elle pas su stopper la dérive de ce jeune délinquant, déjà arrêté deux fois pour vol avec violence entre les mois de février et d'avril? On va faire un point sur ce qui s'est passé dans un instant. Après Sciences Po, c'est la Sorbonne qui a été occupée aujourd'hui par des manifestants pro-palestiniens. Une dérive encouragée, attisée en permanence par les élus de la France insoumise. On verra où en est la situation à l'heure où l'on se parle. La police a évacué le campement qui s'était installé à la demande du Premier ministre Gabriel Attal. Et puis on écoutera le constat sans appel, cette fois du réalisateur de cinéma et acteur Yvan Attal. Pour lui, toutes ces agitations n'ont qu'un seul carburant, l'antisémitisme. On va en débattre ce soir dans Punchline. Mais tout de suite, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité de 17h avec Mathieu Devez. Mathieu.
Gérard Depardieu a été placé en garde à vue ce matin à Paris. L'acteur doit répondre d'accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes. Gérard Depardieu est déjà mis en examen depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle après la plainte de la comédienne Charlotte Arnoux. Gabriel Attal est désormais disposé à débattre avec Jordan Bardella. Jusqu'à présent, le Premier ministre n'envisageait qu'une joute avec Marine Le Pen. Selon des sources gouvernementales, rien n'est décidé en termes de format, de chaîne ou de date. Et puis le gouvernement va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique. Une annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Cela fait suite aux propos du leader insoumis qui avait comparé le président de l'Université de Lille au nazi Adolf Eichmann. Jean-Luc Mélenchon qui a réagi, vous le voyez. Il parle d'une diversion pour faire oublier le crime que nous combattons, le génocide des Palestiniens.
Merci beaucoup Mathieu Devez. On parlera de la situation dans les universités, les facs dans un instant, parce qu'on voit que la France insoumise attise en permanence le feu pour que la situation dégénère. C'est vraiment la stratégie du chaos. On va la décrypter dans un instant à la lumière de ce qui s'est passé à la Sorbonne aujourd'hui et ce qui s'est passé à Sciences Po. On sera rejoint tout à l'heure à 17h30 par Audrey Berthaud, notre journaliste CNews, qui a été agressée en présence d'Emeric Caron de la France insoumise. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se dirige vers Châteauroux. Je vous salue d'abord, peut-être Louis de Ragnel, journaliste.
Bonsoir Laurence.
Merci d'être là. Rachel Kahn. Bonsoir, aussi là, Naïma M. Fadel, essayiste, Eric Revel, journaliste. Les nouvelles ne sont pas vraiment très gaies aujourd'hui, évidemment. On va prendre la direction de Châteauroux, où il y a beaucoup d'émotions et d'indignation après la mort, je vous le disais, de Mathis, 15 ans, ce samedi. On va d'abord faire le point avec le sujet de Maxime Lavandier, et puis on sera sur place avec nos envoyés spéciaux. Ils ont reçu et ils ont recueilli surtout des témoignages très forts et très poignants. D'abord le point.
Des bouquets de fleurs et des bougies déposées en hommage à Mathis. Cet adolescent de 15 ans mortellement poignardé samedi. Chez les habitants du quartier, l'émotion mais aussi la colère prédominent aujourd'hui.
C'est une catastrophe. Ça devient n'importe quoi. Là, c'est plus possible.
Je suis complètement chamboulée d'avoir appris ça. J'en ai pas dormi de la nuit quasiment. Là, je suis vraiment pas bien.
Je trouve ça dramatique parce que j'ai un fils de 23 ans qui est sur Châteauroux et malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui, quoi.
C'est à ce carrefour de Châteauroux vers 18h que la rixe s'éclate. Mathis reçoit plusieurs coups de couteau au thorax. Transporté à l'hôpital dans un état critique, il décède dans la soirée. L'auteur présumé des faits est un autre adolescent âgé lui aussi de 15 ans. Interpellé 2 heures après les faits, il est placé en garde à vue. De nationalité afghane et en situation régulière sur le territoire, c'est un mineur sans casier judiciaire, mais arrêté déjà 2 fois depuis le début de l'année, pour vol, avec violence en réunion sous la menace d'une arme. Pour le maire de la ville, ce drame témoigne d'une généralisation de la délinquance.
L'auteur comme la victime ont 15 ans. Ça c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'on est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là.
La mère du suspect a également été placée en garde à vue car présente au moment des faits. Ils ont par la suite été tous deux relâchés pour être présentés devant un juge. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte.
Oui, parce que c'est vraiment l'horreur qui se rajoute à l'horreur dans cette affaire, puisque la mère de l'individu a été également interpellée et déférée devant un juge. Je vous passe la parole dans un instant, parce que ça nous bouleverse tous et ça nous renvoie tous à une situation qu'on aurait pu vivre avec l'un de nos enfants. D'abord, on va rejoindre Célia Barotte et Bamba Gueye qui sont à Châteauroux. Bonsoir, ma chère Célia. Qu'est-ce que l'on sait du déroulement le plus précis possible des faits, samedi ?
Eh bien, Laurence, samedi, en fin de journée, Mathis a été violemment agressé par un jeune afghan de 15 ans qui lui a porté des coups de couteau dans le thorax et dans le dos. Alors, selon une source proche du dossier, c'est une autre version que ce jeune homme a apportée aux enquêteurs, puisque le suspect afghan a expliqué que c'était Mathis qui, en fin de matinée, l'avait frappé, l'a traité, je cite, de fils de Ben Laden et lui a dit de retourner dans son pays. Alors, l'émotion ici est très vive, comme vous pouvez le voir sur les images de Bamba Gueye, de nombreux riverains se sont réunis, apportent des fleurs blanches, allument des bougies en hommage à ce jeune garçon, Mathis, un apprenti cuisinier de 15 ans. L'émotion est très vive. Et puis, monsieur le maire, lors d'une conférence de presse, a appelé au temps calme, au temps du recueillement pour cette famille qui est touchée par le drame. En tout cas, ici, l'émotion est très importante puisqu'il s'agit d'un quartier qui est réputé pour être calme habituellement.
Encore une petite question, Célia, vous avez recueilli des témoignages d'habitants, on va les entendre dans un instant. Est-ce que l'on sait ce qui s'est passé avec la mère du principal suspect ?
Oui, nous avons interrogé de nombreux riverains, notamment une personne qui a porté secours à Mathis avant que les pompiers n'arrivent. Et elle nous expliquait que la mère du principal suspect avait porté des coups à Mathis, notamment des coups de poing au visage lorsqu'il était à terre. Il était installé juste derrière moi. Il souffrait de sa plaie au thorax. Et la mère de famille de 37 ans, qui a été placée en garde à vue, mais la garde à vue a été levée, lui a porté des coups. Plusieurs témoins ont dit avoir été choqués. Ils se disent vraiment interpellés par le comportement inquiétant et très violent de cette maman qui s'est jetée sur Mathis après son fils, puisque son fils lui avait déjà porté un coup de couteau. Donc c'est l'inquiétude, l'incompréhension et l'émotion qui habitent ce quartier dès aujourd'hui.
Merci beaucoup Célia Barotte et Bamba Gueye pour ces informations précises. Moi je suis absolument horrifiée par ce qui s'est passé à Châteauroux. Par la violence des faits, par la tentative d'inversion des postures, c'est que la victime va devenir le bourreau et le bourreau va devenir la victime. On connaît la mécanique qui se met en place. Mais là, ce à quoi on assiste, c'est donc une mère de famille qui, après que son fils ait poignardé un jeune au sol,
elle l'a emmené en voiture.
Elle le frappe au visage. Non mais en fait, c'est de la barbarie à l'état pur. Alors peut-être je vous passe la parole à chacun, Louis.
Non mais moi, il y a trois éléments qui me heurtent vraiment, enfin, que je trouve particulièrement choquants. La première chose, c'est que la nationalité afghane n'est pas, enfin, il faut la disséquer, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement des gens qui sont arrivés avec le statut de réfugiés parce qu'ils devaient être menacés de mort dans leur pays. Et donc on voit que quelques années après, eh bien voilà ce qui se passe avec des gens à qui on a accordé l'accueil, l'asile, pardon.
Oui, parce qu'ils sont en situation régulière.
Ils sont en situation régulière, voilà. Mais la nationalité, voilà, des gens d'origine afghane, c'est une nationalité un peu spéciale compte tenu de ce qui s'est passé
depuis 30 ans dans leur pays. Étant donné que c'est les talibans en pouvoir, évidemment.
Exactement. Deuxièmement, c'est hélas la suite d'une longue liste. Après Samara, alors elle n'a pas été tuée, mais elle a été violemment agressée. Après Chemseddine à Viry-Châtillon.
On va y revenir, Louis, dans un instant. Mais là, ma question, c'était la mère. Attendez. Qui voit son fils poignarder un jeune homme de 15 ans qui est au sol, qui est en train d'agoniser? Comment est-ce qu'elle peut elle-même porter des coups et pas porter secours ?
Ah mais c'est...
Ça s'appelle l'humanité,
l'inversion
en fait.
Des valeurs totales, et d'autant plus que la mère a emmené son fils en voiture. Elle l'a vu, son fils, poignarder le jeune Mathis. Et ensuite, elle est sortie de sa voiture pour aller lui donner une gifle.
Ça, c'est les sources policières que vous avez. Rachel, on est un peu sans mots parce que là, on dépasse toutes les limites de la barbarie.
De la barbarie, évidemment, et puis même très froidement et très cliniquement, la non-assistance à personne en danger. Mais comment on peut aller mettre un coup en plus à quelqu'un qui est déjà une gifle, à quelqu'un qui est déjà à terre? Et puis après, ça nous pose toujours cette même question. Nous n'arrivons plus à protéger notre jeunesse d'elle-même. Et vous avez dit un mot, peut-être sous forme de lapsus, cher Louis, l'accueil. Très bien, l'immigration, et là l'asile en l'occurrence, ouais. L'asile. Mais ensuite, les conditions de l'accueil, c'est-à-dire comment on accompagne ces personnes qui ont vécu peut-être aussi des traumas d'une violence aussi, sans vouloir excuser, hein, attention,
oui.
Je n'excuse pas.
Là, moi, j'ai pas envie de...
Non, mais je sais bien. Mais par contre, ça pose la question de cet accueil des migrants. Là, la scène... très sincèrement, on aurait à l'écrire dans un film, le producteur vous dirait « Non, on ne peut pas aller jusque-là. »
La mère de famille ne peut pas venir frapper le jeune qui est en train d'agoniser.
Enfin, c'est Châteauroux. Moi, c'est une ville que je connais un petit peu, dans l'Indre. Une ville sans histoire. Ce quartier, justement, il a été dit que c'était un quartier
calme. Très calme.
Et que là, on est effectivement au-delà de l'imaginable et dans une barbarie sans nom.
Naïma, vous êtes peut-être parce comme nous, sous choc.
Bien sûr, hein, moi, je trouve que c'est un drame terrible. Et c'est terrible parce qu'en fait, quand on a parlé, je crois que le dernier, c'était Philippe.
Grande sainte, malheureusement, 22 ans.
Après Chemseddine, après Zakaria, l'expédition punitive déjà par un parent avec ses enfants. Marche blanche encore une fois, et j'avais dit sur un plateau, je crois que c'est sur le plateau de Sonia, j'avais dit ben, j'espère qu'on n'aura pas une prochaine fois. Et en fait, regardez,
c'est tous les
jours. Une semaine, tous les jours. Mais je crois que l'analyse qu'on doit avoir aussi, c'est changer de logiciel en fait. Parce que.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire, Laurence, vous dites.
Parce que là, la justice a été incapable de l'arrêter.
Comment est-ce possible
dans ce parcours.
Mais je crois qu'il faut aussi aborder ça d'une manière anthropologique aussi.
Oui.
C'est-à-dire que ces personnes-là qui arrivent, et je crois que
Rachel
a raison, arrivent aussi avec leur environnement social, culturel et de violence. Donc on est aussi dans le choc des civilisations ici. Il faut oser le dire. Et effectivement, comme le disait Rachel, c'est qu'on ne conditionne pas notre générosité. Notre pays est un pays généreux. Le droit d'asile est un droit fondamental, effectivement. Mais sauf qu'on ne le conditionne absolument pas. C'est venez comme vous êtes. Et on ne déroule pas aussi une politique d'intégration. Didier Lesquy l'écrit aussi dans son
livre de l'immigration. L'ancien patron de l'Office français de l'immigration.
Il est toujours directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et il le dit clairement par rapport à dans son petit livre « L'immigration, ce grand dérangement », où il dit par exemple sur les Afghans, c'est par principe ils sont accueillis. C'est-à-dire qu'en fait, on n'étudie même pas les dossiers. Faut pas
sûr.
C'est-à-dire par principe parce qu'il y a les talibans. Mais est-ce que tous sont
mais auparavant
les talibans
aussi, attendez, non, mais, ça fait deux ans, je crois, de mémoire, que les talibans, ou trois ans.
Ça fera deux ans.
Deux ans cet été, voilà.
Et regarde,
mais avant, on accueillait aussi. Et c'est Vincent Herbouët qui disait ça ce matin chez Pascal.
Alors que les Allemands,
on
par exemple,
accueillait les Afghans.
Je vous donne un exemple. En Allemagne, il y a deux ans avant la chute de Kaboul, n'accordait pas de manière inconditionnelle le droit d'asile aux ressortissants.
Il les déboute, ils viennent chez nous, sachant qu'ils seront acceptés.
Bien sûr. Eric, qu'est-ce qui vous... Il y a plusieurs choses, évidemment, dans ce drame. Et puis, il y a aussi le fait que la justice n'ait pas su arrêter le parcours de délinquance. Je le disais, le jeune de 15 ans a été arrêté deux fois entre les mois de février
alors, donc,
et avril pour vol avec violence.
Il n'y a pas de casier judiciaire, c'est justement parce que la justice
moins
met
de 15
du
ans.
Temps.
Enfin, à 15
oui,
ans,
d'abord.
Moins de 15 ans.
Et c'est aussi parce que, bon, non, moi, ce qui me... Bon, tout a été dit, moi, ce qui me... Vous voyez, mettez-vous à la place. Vous avez un enfant de 15 ans qui vient d'être mortellement assassiné par un barbare. Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans la colère, dans la tristesse, dans l'envie de tout casser? Vous voyez, c'est... Moi, j'essaie de mettre à la place des parents...
On peut pas se mettre à la place.
Non, mais c'est absolument horrible. Puis, vous l'avez dit, moi, ce qui me choque aussi beaucoup, vous voyez, l'enquête le dira, s'il y a eu des insultes racistes, etc. Mais ce qui me choque beaucoup...
Non, mais on va pas inverser
voyez,
les rôles. Hein,
voyez, on est en train de couper en quatre les cheveux avec le poignard de celui qui a assassiné ce gamin. Mais insultes racistes, peut-être. Mais est-ce que ça mérite la mort? Vous rendez compte? Insulte raciste, bah, c'est pénalement condamnable par définition. Mais là, vous avez ce gamin qui porte des coups mortels, et puis ce que vous avez dit, moi je n'avais même pas vu ça comme ça. C'est-à-dire que la mère continue à s'acharner quasiment sur le corps de ce gamin qui est en train de mourir.
Mais, qui est inerte.
Mais est-ce qu'on peut aller plus profondément dans la barbarie?
Non, je ne crois pas. C'est pour ça que c'est absolument exemplaire. Dans le mauvais sens du terme, ce qui s'est passé à Châteauroux. J'aimerais juste qu'on écoute notre ami Georges Fenech, ancien magistrat, sur la levée de l'excuse, évidemment, de la majorité pénale. Pardon. Parce qu'évidemment, la question qu'on se pose maintenant, c'est la justice. Pourquoi est-ce que cet adolescent n'a pas été arrêté dans son parcours? Il a été arrêté deux fois avec un couteau. Avec un couteau. Il se promenait dans les rues de Châteauroux. Écoutez Georges Fenech, ancien magistrat.
On ne veut plus d'incarcération pour les mineurs. C'est clair. C'est une volonté de ne jamais placer un mineur en détention. On a supprimé les courtes peines, on a scindé le procès pénal des mineurs entre le jugement de culpabilité et 9 mois plus tard, le jugement de condamnation. Donc vous avez un jeune qui commet des agressions violentes avec armes qu'on relâche aussitôt. Alors il faut évidemment revoir la question d'excuses atténuantes de minorité.
Oui.
Il faut abaisser, me semble-t-il, la majorité pénale à 15 ans aujourd'hui. Il faut des comparutions immédiates et il faut des courtes peines et des sanctions immédiates. C'est la seule chose que comprennent certains délinquants.
Louis, d'accord avec ça ?
Oui, non, mais d'autant plus que quand on rentre dans le détail, donc il n'était pas condamné, il n'y avait pas de casier judiciaire, non. Mais quand on regarde le détail des deux mises en examen, j'en cite simplement une. Donc c'était celle du 22 avril dernier. Donc il a été mis en examen pour vol aggravé avec violence.
Le 22 avril, là ?
Absolument, pour avoir volé, parce qu'il faut rentrer dans le détail. Il a volé avec un couteau, un téléphone portable, à quelqu'un à qui il a tendu un guet-apens sur un site de rencontre. Et pour cette raison-là, il a été placé sous contrôle judiciaire. Et alors, la question de la levée de l'excuse de minorité n'est pas simple dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas lever l'excuse de minorité quand il n'y a pas de condamnation. Et donc l'auteur présumé de la mort de Mathis, pour l'instant, est encore, au regard de la justice, présumé innocent. Même si,
c'est terrible, parce qu'en fait, on leur donne un permis à recommencer.
Et donc... Non, mais la difficulté, c'est que, premièrement, la mise en examen pour le fait qu'on vient de citer est quand même un fait, moi, que
je trouve... Il y avait une autre mise en examen
avant. Je trouve très grave. Il y avait une autre mise en examen le 27 février, aussi pour un vol de portable avec la menace d'un couteau. Donc, ça fait deux fois en très peu de temps.
En 3 mois.
Et donc, effectivement, on a l'impression que tout ça traîne. Et pour beaucoup de gens, c'est insupportable, c'est incompréhensible que cet individu-là soit encore en liberté et que la justice n'ait pas pu l'entraver.
Évidemment. Rachel, est-ce qu'il y a un moyen de juguler ces phénomènes?
Oui, enfin, selon moi, c'est toujours le même hein, sur la question de l'éducation et notamment
vous vous rendez compte, la mère vient frapper.
Le fait que la mère vienne frapper,
que je voulais demander
là où c'est très perturbant, c'est-à-dire qu'en fait, elle a en face d'elle comme son fils finalement qui est à terre. Et en fait, c'est ça qui est bouleversant. C'est, là, il n'y a plus de notion de fraternité, de solidarité. On passe à complètement autre chose. Après, je crois que tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le préfet qui s'exprimait en disant
le maire, en disant que
c'est une cette histoire de violence de nos jeunes.
C'est un
enjeu national. Mais là, on le voit par rapport à toute la liste que vous énonciez tout à l'heure. Que cet enjeu-là, c'est maintenant, en fait.
C'était hier.
Mais cette question, notamment, que les peines arrivent vite, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, pour qu'il y ait effectivement cette levée de l'impunité. Parce que là, on a une jeunesse qui se sent en fait, complètement.
Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut la buter. C'est-à-dire, dès le premier acte de délinquance, le premier acte, et ça, le docteur Maurice Berger en parle, et d'ailleurs, Georges Fenech en a parlé tout à l'heure, pour que, justement, ça soit dissuasif. C'est-à-dire qu'il y ait un électrochoc.
Pour moi, c'est même...
C'est-à-dire que pour que le gamin ne récidive pas. Et moi, qui travaille depuis longtemps sur les quartiers, à chaque fois, on a vu des gamins qui ont récidivé parce que, effectivement, certaines fois, on attend qu'ils aient 18 ans pour les rappeler à l'ordre. Mais c'est trop tard.
C'est trop tard.
Ils se sont déjà installé dans la
violence.
Et puis après, il y a la question de encore une fois, de la responsabilité parentale.
Évidemment.
J'arrête pas de
Moi, je trouve que c'est pas le premier acte. Je trouve que à l'école, des petits, il y a des mesures de détection qui doivent être prises.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que franchement,
Nicolas Sarkozy en avait parlé et rappelez-vous, les clés d'Orfraie. Vis-à-vis de ça. De toute façon, c'est pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a laissé faire et qu'on a un tabou pour aborder et changer de logiciel par rapport à la question de la délinquance des mineurs et de la place et du rôle des parents.
La responsabilité parentale, dans le cas présent, malheureusement, est écrasante.
C'est pareil, si on avait une politique familiale, vous venez chez nous, voilà comment ça se passe.
Mais on leur dit pas. On ne dit pas ça.
Je pense qu'à un moment, il faudra leur dire que vous venez plus chez nous.
Exactement, comme le fait l'Australie.
Moi, c'est là où je pense qu'en fait... On est sans cesse en train de se dire, voilà, il va falloir leur imposer, il va falloir qu'ils se soumettent. En fait, c'est simple. Déjà, on n'a pas besoin de cette immigration-là. On est là gentiment, on n'arrive déjà pas à prendre en charge ceux qui sont déjà sur notre territoire. Donc maintenant, je pense qu'à un moment, il faudra dire stop. Enfin,
ça sera intéressant de voir à quel moment cette famille est arrivée sur le sol français, si c'était bien
du
régime des talibans. Ça sera intéressant. Eric, on va écouter le témoignage dans un instant d'une habitante.
Je regardais politiquement, vous avez vu Gabriel Attal est en train de consulter.
il a demandé
de sur la violence des mineurs. Résultat dans 10 minutes, la concertation dans 2 mois. Bon,
terrible.
Mais enfin, voyez, enfin, pardonnez-moi, mais entre la violence, l'instantanéité des coups de couteau et cette espèce d'inertie gouvernementale, même le maire de Châteauroux, pardonnez-moi, je vais être un peu dur avec lui, il s'aperçoit qu'il y a de la violence des mineurs dans ce pays.
Bah, c'était non, il dit que c'est de l'ensauvagement, mais, du coup, la réponse politique. Mais
les sauvageons, ça fait longtemps que l'ancien.
Enfin, le constat, on l'a posé, vous avez raison.
On l'a posé. Alors, non, mais on voit bien, vous voyez, on coupe les cheveux en quatre, alors peut-être que lui, il essaie de s'acheter encore.
La paix dans sa vie, dans sa ville.
Mais en fait, à force de mettre cette poussière sous le tapis, elle est tellement épaisse, si vous voulez, qu'on ne peut plus marcher sur le tapis en France.
Bien sûr. Non, il est bien, Gilles Averrousse. Pourtant, c'est un maire, il est au contact de ses concitoyens, il connaît la réalité. Écoutons juste le témoignage de cette habitante qui a été recueillie par Célia Barot et Pamba Gueye. Elle était là, elle a porté secours au jeune Matisse. Écoutez-la.
J'ai entendu rire et crier. Donc, que j'ai regardé par la fenêtre au début, parce que j'étais quand même un peu surprise. Parce que c'est un quartier très, très calme, il n'y a rien à dire. Et j'ai vu des jeunes, mais comme ça rigolait, je me suis dit, oh, ils s'amusent. Puis la seconde, quelques secondes après, j'ai entendu hurler. Et en fait, le jeune homme qui était debout, la seconde était à terre. Donc je suis tout de suite descendue aider. Le plus dur, c'est surtout qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était des coups de couteau. On pensait qu'il s'était fait agresser, mais pas qu'il s'était pris des coups de couteau. Donc on s'en est rendu compte un peu tard. C'est peut-être ça, ce qu'on s'en veut aussi énormément. Parce qu'on aurait aimé faire plus pour le sauver, donc... C'est vraiment très dur.
C'est difficile pour tout le monde. Beaucoup de réactions politiques. Marine Le Pen se demande combien de nos enfants paieront encore de leur vie cette folle politique migratoire. Mes pensées les plus attristées à la famille. Il y a eu des réactions des Républicains. Des réactions de... Bon, pas beaucoup à gauche, hein, bizarrement, Ludo Ragnel.
Non,
ça a réagi à droite, mais pas à gauche.
Il faut se concentrer sur l'organisation
de la Sorbonne. Sur les facs, effectivement. Oui, voilà, mais enfin, c'est silence assourdissant. Silence assourdissant, mais pourquoi? Parce que c'est un migrant,
mais
c'est
parce,
ça
parce qu'il y a l'évidence, il y a tellement
plus.
Mais le problème,
Manuel Valls était courageux ce matin,
oui,
comme d'habitude.
Absolument, mais tous ces exemples à chaque fois sont très caricaturaux. C'est-à-dire que ça paraît, vous parliez de cheveux, alors je vais filer la métaphore des cheveux, mais ça paraît tellement tiré par les cheveux, alors qu'à chaque fois c'est vrai. Non, mais tout est excessif, l'excès devient quasiment la norme.
Mais Louis...
Moi, ce qui me gêne aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre d'entendre ça, et c'est un peu comme ça sur tous les sujets, c'est d'entendre à chaque fois, oui, c'est une minorité, à chaque fois ça représente peu de monde. En fait, on a l'impression, si c'est une minorité, donc c'est pas un problème.
Exactement.
Or, c'est un problème. Et donc, en fait, on peut pas passer son temps à dire que parce que c'est minoritaire, il faut des réponses chirurgicales.
Et
tout le monde se rassure en se disant 95% de la jeunesse va bien. C'est pas vrai, c'est faux.
Alors, pas tous en même temps.
Non,
Eric.
Mais vous avez vu ce que met en place le Premier ministre britannique d'origine indienne,
Rishi Sunak?
Oui, ce qu'il met en place après des mois et des mois de palabres.
L'expulsion vers le Rwanda.
Oui, c'est après un accord financier avec le Rwanda, c'est tous les immigrés illégaux en Grande-Bretagne sont expulsés vers le Rwanda.
Et vous avez vu le résultat, Eric? Tous les migrants qui sont en Grande-Bretagne fuient vers l'Irlande.
Absolument.
Les renvoient sur l'Europe.
Ce que je veux dire, c'est que ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle de la remigration. Ça s'appelle remigration contrainte.
Exactement.
Est-ce que vous avez entendu un homme politique de gauche, par exemple, qualifié d'extrême droite, le Premier ministre britannique? Pas du tout.
Pourquoi ils n'osent pas, à votre avis?
Mais parce qu'il
est issu de l'immigration.
Allez-y, je veux vous l'entendre dire.
Mais parce que d'abord, il trouve une solution qui me paraît concrète, on verra si elle est faisable ou pas, mais au moins, il se passe quelque chose dans ce pays. Et ensuite, parce que le Premier ministre britannique est d'origine indienne.
Merci. Juste, on écoute Manuel Valls, invité ce matin de Sonia Mabrouk, sur ce qui s'est passé à Châteauroux.
Les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés. C'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite.
Il n'y en a pas beaucoup à gauche qui disent ça, Rachel.
Non, il n'y en a pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Et en fait, cette réponse forte du Premier ministre, en fait, elle m'interpelle beaucoup, parce que finalement, avec toute la liste de jeunes qui sont morts depuis ces derniers mois, on se rend bien compte qu'on n'est plus capables de pleurer nos enfants ensemble. Mmh. Et ça, c'est dramatique. Et ça veut dire...
Ou de les protéger.
Ou de les protéger, mmh. bien sûr. De les protéger, mais là, sur les différentes réactions mmh. des uns ou des autres, c'est qu'on ne fait plus nation autour des enfants qui ont vécu ce genre de barbarie. Mmh. Et ça raconte aussi en creux à quel point nous ne parlons plus la même langue.
Exactement. Et à quel point on a baissé les bras. Petite oui. pause, on se retrouve dans un instant. On va voir ce qui se passe du côté de la Sorbonne. La police a évacué le campement sauvage qui a été installé par des manifestants pro-palestiniens à la demande de Gabriel Attal. On sera sur place dans un instant. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Mathieu Devez. Mathieu.
Une trêve de 40 jours a été proposée au Hamas. Elle prévoit également la libération d'otages et de milliers de prisonniers palestiniens. Le secrétaire d'État américain appelle les dirigeants du mouvement terroriste à prendre rapidement une décision. À Marseille, une association de défense de l'environnement refuse de porter la flamme olympique. En cause, la présence d'une célèbre marque américaine de soda comme parrain officiel. Selon l'association, les canettes font partie des déchets qu'elle ramasse le plus en nettoyant le littoral. Enfin, la police a évacué les militants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes à l'intérieur de la Sorbonne, mais une centaine de personnes sont toujours présentes à l'extérieur des locaux. Selon son entourage, Gabriel Attal suit la situation de près. Le Premier ministre est en lien avec la préfecture de police.
Merci beaucoup Mathieu Devez. On a été rejoint par Audrey Berthaud. Bonsoir Audrey, vous êtes journaliste à CNews. On va parler avec vous de ce que vous avez vécu devant Sciences Po. On parle aussi de la Sorbonne, mais là c'était devant Sciences Po. Votre équipe a été agressée par des personnes sur place alors que vous étiez en train d'interviewer Émeric Caron. On va en parler dans un instant. On a été aussi rejoint par Noémie Schultz. Bonsoir Noémie.
Bonsoir Laurence.
On va parler avec vous rapidement de ce qui se passe autour de Gérard Depardieu qui a été placé en garde à vue aujourd'hui à Paris dans le cadre de plusieurs enquêtes sur des agressions sexuelles. De quelle affaire on parle exactement Noémie là ?
Alors on parle de deux plaintes séparément. Effectivement, Gérard Depardieu était convoqué par la police judiciaire. Il est visé par deux plaintes. La première qui a été déposée il y a très peu de temps, en février dernier, par une décoratrice. Elle travaillait sur le film Les Volets Verts de Jean Becker et elle accuse Gérard Depardieu de l'avoir agressé sexuellement. Les faits remontent à septembre 2021. Elle évoque des propos graveleux. Elle a notamment indiqué que l'acteur l'avait violemment agrippé, lui aurait pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. Selon les journalistes de Mediapart, une confrontation devait être organisée cet après-midi entre cette jeune femme et le comédien. La seconde plainte le visant a été déposé par une ancienne assistante de tournage. Les faits qu'elle relate sont plus anciens, 2014, selon le Courrier de l'Ouest qui avait rencontré cette jeune femme. Celle-ci avait également dénoncé des propos obscènes, des propositions sexuelles, une agression sexuelle sur le tournage d'un film de Jean-Pierre Mocky. Le comédien de 75 ans est déjà mis en examen pour agression sexuelle et viol sur une jeune femme, Charlotte Arnoux. Il a toujours nié ces faits. Par ailleurs, plus d'une dizaine de femmes avaient témoigné auprès de nos confrères de Mediapart d'agressions dont elles s'estiment également victimes de la part du comédien. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme, avait-il dit dans une lettre publiée dans le Figaro en octobre 2023. Ses avocats n'ont pas répondu à nos sollicitations et sa garde à vue, donc entamée ce matin, peut durer jusqu'à 48 heures.
Avec à la clé une mise en examen possible, Noémie ?
Absolument, c'est possible.
Une nouvelle mise en examen.
De cette garde à vue, on verra ce que le parquet décide de faire, de poursuivre, éventuellement de dire qu'il faut plus aller plus loin dans les investigations avec l'ouverture d'une information judiciaire. Voilà, on attend de voir l'issue de cette garde à vue.
Merci beaucoup, Noémie, d'être venue nous faire un point sur ce qui se passe avec Gérard Depardieu. J'aimerais qu'on parte maintenant du côté de la Sorbonne, puisqu'après les campements à Sciences Po, c'est la Sorbonne, la faculté de Paris, qui a été prise d'assaut aujourd'hui par des militants pro-Gaza. Dans la cour d'honneur du site historique de l'université, il y avait des tentes, des drapeaux palestiniens qui ont été déployés et tous les cours ont été annulés pour la journée. On va rejoindre sur place nos envoyés spéciaux Maxime Leguet et Florian Paume. Bonsoir à tous les deux. Quelle est la situation sur place, Maxime ?
Bonsoir Laurence, écoutez, c'est une centaine d'étudiants qui déploient et agitent ce grand drapeau de la Palestine que vous voyez actuellement et qui occupe depuis le début de l'après-midi la place de la Sorbonne devant la faculté du 5e arrondissement de Paris. Des étudiants qui scandent inlassablement Israël, assassin, Macron, complice, Free Palestine ou encore ce slogan à caractère antisémite, From the river to the sea, Palestine will be free. Alors la plupart des étudiants que vous voyez voyez ici ont un peu plus tôt dans l'après-midi, vous le rappelez, investi la cour centrale de la Sorbonne, celle qui donne accès aux amphithéâtres. Les forces de l'ordre sont donc intervenues et ont évacué les étudiants qui occupaient les lieux. Ces étudiants qui se sont donc rabattus ici devant l'université sur cette place de la Sorbonne pour une manifestation improvisée et donc illégale car non déclarée. L'appel au blocage avait été lancé sur les réseaux sociaux par l'UNEF, le collectif Le Point Levé ou encore l'Union étudiante, un appel au blocage qui a été relayé par Adrien Quatennens de la France Insoumise ou encore la militante pro-palestinienne Rima Hassan. Alors les députés de la France Insoumise, Thomas Porte et Louis Boyard étaient présents sur place aux côtés des manifestants. Et puis il y a quelques minutes, le député David Guiraud, muni de son écharpe tricolore, est venu s'exprimer au mégaphone à l'adresse des étudiants et leur apportant son soutien dans leur action. Le tout entre plusieurs selfies réalisés avec les manifestants. Alors au moment où je vous parle, les forces de l'ordre ont déployé un périmètre de sécurité pour boucler le secteur et l'accès à l'université. Des étudiants qui sont, au moment même où je vous parle, en train d'avoir une minute de silence en hommage aux Palestiniens qui disent pour eux qu'ils sont victimes d'un génocide. Voilà ce qui se passe ici devant la place de la Sorbonne. On vous tiendra au courant si une évacuation a lieu.
Merci beaucoup Maxime Le Guay et Florian Paume, nos deux envoyés spéciaux de CNews dont on ne verra pas le visage et qui font leur travail en ne disant pas qu'ils appartiennent à notre chaîne parce qu'ils risquent d'être agressés, ils risquent d'être menacés comme vous l'avez été, ma chère Audrey Berthaud, c'était à la Sorbonne,
ouais, vendredi.
En ce qui vous concerne. On va peut-être regarder d'abord ce qui s'est passé avec votre équipe, l'équipe CNews. On va faire le parallèle, évidemment, entre ce qui se passe à la Sorbonne et ce qui se passe à Sciences Po. Et pourquoi on prend des précautions pour protéger nos journalistes? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est la sécurité des journalistes, des jeunes journalistes talentueux comme vous qui prenez des risques sur le terrain. Donc on va regarder ce qui s'est passé entre vous et un manifestant pro-palestinien qui était là. Vous étiez en train d'interviewer Aymeric Caron de la France Insoumise. On va après décrypter le rôle de la France Insoumise hein, sur tous ces événements, parce que vraiment c'est jeter de l'huile sur le feu en permanence. D'abord, on regarde cette séquence qui, évidemment, vous a beaucoup troublé.
Actuellement, à Gaza.
Dégager, genre vraiment.
Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. BFM, pareil, mais partez. Partez, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez ces lignes, sérieusement. Mais partez. Vous n'avez pas.
Ils sont ici, on les dégage, ils sont pas les bienvenus. Il y a un coup de la mer sur nous. Ils nous traitent de terroristes. Cassez-nous, c'est nous là. Dès que vous n'êtes pas les bienvenus ici.
Voilà pour ces lâches qui agissent en meute comme toujours. Mmh. Audrey, on n'imagine pas ce que ça veut dire. Alors, parce qu'il y a les journalistes sur les plateaux, on est plutôt dans une situation confortable. Être sur le terrain, toute seule, au milieu de cette foule haineuse, franchement, je sais que ça doit être très difficile et que vous l'avez vécu, c'était compliqué.
Très difficile, très impressionnant aussi. En effet, on se sent en danger. Là, je me suis sentie en danger avec Raphaël Lazrec, je rappelle, qui est le caméraman.
Évidemment.
Et qui, lui, a été même impacté indirectement parce qu'on lui donne des coups dans la caméra. Et la caméra, bah, évidemment...
Qu'il la prend dans la figure. Hein.
Il la prend dans la figure. Et c'est la continuité de son corps, quoi. Et aussi de notre métier, d'ailleurs. Donc, c'est aussi un symbole de frapper la caméra, j'imagine. Donc oui, je pense que ce jeune qu'on voit, il a voulu... Il n'a pas, je pense, apprécié le fait qu'on donne la parole à Aymeric Caron. Il n'a pas apprécié le fait qu'Aymeric Caron nous réponde. Mmh. Aymeric Caron, pour le coup, a vu hein, qu'il répondait à CNews. Là-dessus, je pense que...
Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Ouais.
Voilà. Mais voilà, et on comprend qu'il y a une réelle haine, un acharnement envers notre chaîne, pas notre métier, puisqu'apparemment, c'est seulement la CNews qui pose problème. Et BFM.
Et BFM, hein, ouais. Quand même, il faut aussi signaler que...
Mais après, il y a des slogans... voilà.
Non, mais bien entendu, des slogans qui sont dits par la meute. Monsieur Caron, après, s'est fendu d'un long tweet en demandant notre disparition du paysage audiovisuel français. Je le laisse à cette passion triste. Mais la séquence, elle dure beaucoup plus longtemps que ça, Audrey, plus que les quelques secondes qu'on voit ici.
Oui, c'est ça. Après, on va s'écarter parce qu'en fait, on voit qu'on est encerclé, en danger et on comprend qu'il faut partir. Et puis, voilà, c'est pas un moment agréable. Donc, on s'écarte, on s'exécute. Et là, on va se mettre sur le trottoir un petit peu plus loin. Cette personne va revenir. Elle revient à la charge, elle nous redit mais pourquoi vous restez là, etc. Là, moi, je lui dis d'ailleurs mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On vient juste faire notre métier de journaliste. On est sur la voie publique, on est sur un trottoir. Donc c'est assez hallucinant. Et après, même une heure plus tard, donc après on a vraiment pris nos précautions. On est resté au bout de la rue alors que tous les journalistes étaient devant Sciences Po. Nous, on était à l'opposé parce qu'on ne pouvait plus faire des duplex ou quoi. Et il est quand même revenu. Il nous a redit, vous avez vraiment du courage d'être là encore. Donc ouais, il a vraiment insisté et il n'a pas lâché. Il ne nous a pas lâché, quoi.
Ce qui est terrible, Eric, je sais que vous avez dirigé une grande rédaction aussi. C'est que moi, je pense que ces gens sont responsables de cette violence-là. Je parle des gens à la fois de la France insoumise, mais aussi des excités qu'il y avait devant Sciences Po et aujourd'hui devant la Sorbonne, qui mettent des cibles dans le dos à nos journalistes, à Audrey, mais à tous ceux qui font du travail sur le terrain, et qu'un jour, ça va mal se terminer. Et qu'ils seront co-responsables de cette violence.
Oui, vous avez raison. Moi, je remarque une chose dans l'attitude d'Émeric Caron, qui protège de son bras, qui dit pas de violence, c'est un peu la même chose que dans les tweets de la France insoumise. Il y a une espèce d'ambiguïté perverse. Vous voyez, c'est jamais très clair, c'est jamais une position tranchée. Parce qu'en réalité, Émeric Caron, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il vient de chercher, les filles à Sciences Po, à la Sorbonne ?
Des voix.
Et voilà. En fait, il ne peut pas attaquer son petit butin électoral, si vous voulez. Donc, bien il ne peut pas prendre position. Mais il a été journaliste, Émeric Caron, quand même, je crois.
À Europe 1, notamment.
Me souvenir. Donc, il devrait savoir ce que c'est que le métier.
Il y a quelques années.
La difficulté que ça représente. Et tout ça, en fait, ça me met assez en colère, parce que vous parliez d'une chaîne que j'ai dirigée. Mais moi, la première chose qui m'importait, quand je
savais... C'est la sécurité des gens.
Et bien sûr, quand c'est vous saviez sur des manifs ou ailleurs. Et il a fallu d'ailleurs, vous l'avez sans doute constaté, Laurence, vous en avez souvent parlé aussi, c'est qu'il y a eu une détérioration du métier de GRI au fur et à mesure. La violence.
Alors, journaliste, rapporteur, c'est celui qui tient la caméra. Voilà.
C'est invité. Effectivement, maintenant, dans des manifs importantes, on encadre les journalistes avec des vigiles. Parce que sinon ils risquent des coups et des blessures. Je veux dire, on en est là dans un pays qu'on dit démocratique. Et de la part de gens, j'insiste, la France insoumise, pour qui la liberté d'expression paraît
un étendard.
Voilà. Et quand vous leur interdisez de parler dans une université, ils disent c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais là, il y a pas de sujet. Moi, je suis assez révolté. Je vous le dis comme
Audrey.
Je
sur les agents de sécurité, je rebondis juste parce que en temps normal, quand j'ai fait des manifestations contre la loi immigration, etc., on avait évidemment des agents de sécurité. Là, c'était pas le cas. Parce que on allait devant Sciences Po, il y avait 100 étudiants de Sciences Po qui étaient devant une université. À aucun moment on a pensé que ça allait tourner comme ça.
Naïma.
Et puis c'est pas normal Rachel. D'avoir des agents de sécurité. Vous voyez un peu cette dérive. Enfin, moi je suis horrifiée de voir ce que devient la France. Et puis vous voyez le communiqué qu'il a fait, Émeric Caron, c'est encore pire.
Oui, c'est encore pire.
Parce que là il renforce. De vous mettre une cible dans le dos.
Il cautionne.
Puis clairement, il dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Enfin, le communiqué, il est quand même très clair. Il cible les journalistes de CNews. Et effectivement, alors que les députés représentants de la République sont censés faire respecter justement la République, la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de la presse et la liberté d'informer. Donc c'est terrifiant ce qu'ils sont devenus ces gens-là.
D'accord.
C'est pyromane et c'est extrêmement grave au moment où on sait qu'aujourd'hui, eh bien malheureusement avec les menaces que nous rencontrons tous, c'est très facile de créer justement, enfin d'avoir des personnes comme cette énergumène qui peuvent justement s'attaquer.
Mais c'est pas que lui, c'est tous là, oui, parce qu'ils sont en meute.
Ces énergumènes,
ils sont en meute.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une meute, c'est des énergumènes. Mais c'est beaucoup plus grave quand c'est des représentants de la République.
Mais pardon, et alors ça a été pour vous, journaliste. Moi, je pense aux étudiants juifs.
Oui.
Ils ont peur d'aller dans ces amphis. Ils ont peur chaque jour d'aller à la fac. Dans notre pays, Rachel, c'est insupportable.
C'est insupportable. Depuis le 7 octobre, c'est extrêmement difficile d'aller à la fac juste pour apprendre, juste pour passer ses examens. Moi, j'ai ma petite que j'ai retirée de Nanterre, je vous l'avais dit, au mois de novembre, parce que sur les campus, c'est une forme de harcèlement, d'intimidation permanent.
Alors c'est encore plus choquant peut-être Sciences Po qui représente au niveau international quelque chose, mais bon, c'est de la même manière. Après,
sur les questions... Mais on entend beaucoup dire, Rachel, c'est pas grave, c'est quelques excités. Mais si, c'est grave. C'est très grave.
Pour les enfants, pour les enfants qui sont en construction, les jeunes adultes qui passent à 18 ans en construction et qui ont ce genre d'harcèlement par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire ça entache l'ensemble de leur vie. Après, moi, je suis assez surprise qu'on n'ait pas eu un communiqué, peut-être de RSF, Reporters sans frontières, pour protéger les journalistes.
Bah,
je
sais pas. Oui,
bah, pour protéger les journalistes.
Bah, chiche, tiens. On va leur demander de faire un communiqué pour défendre deux personnes, notre journaliste.
Leur travail.
Juste, on va juste écouter la réponse aussi, parce que vraiment, ça vaut son pesant de cacahuète, de Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement, qui, elle, s'est exprimée sur les manifestations étudiantes pro-palestiniennes. On sait que elle a félicité la direction de Sciences Po, qui avait donc passé un pacte avec les étudiants.
Trouver
un accord, c'est-à-dire
un accord,
qu'il n'y a personne n'est viré, personne n'est sanctionné.
Mais un accord, c'est-à-dire qu'on négocie avec ces
monstrueux. On va juste écouter la qualité de la réponse.
Il y a un vrai sujet autour de cet accord.
Mmh. Bien sûr, écoutez Madame Retailleau.
Je crois qu'on doit parler de la vie étudiante, de la vie étudiante. Sur les points de Sciences Po, j'ai exprimé chez vos collègues et je fermerai vous dire que le débat. Oui, l'expression oui, le blocage non, et je dirais l'escalade encore moins.
Alors ça.
Non, mais en fait,
il n'y a rien
qui va. C'est-à-dire que vous avez une ministre qui normalement devrait mettre la pression sur la direction de l'école, devrait faire des articles 40 pour signaler au procureur de la République à la fois des manifestations illégales sur la voie publique, des slogans. Certes, toujours sous couverture d'antisionisme, mais qui en réalité, enfin pour en tout cas des gens comme moi, sont antisémites. Et puis avec tout ce qui vous est arrivé, même les violences dont vous avez été victime, tout ça est inacceptable.
Valérie Pécresse, à l'instant, un patron de la région Île-de-France suspend tous ses financements de la région destinés à Sciences Po.
Absolument. Et dit, c'est intéressant parce que.
Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite.
Au renoncement de la direction, elle termine son message là-dessus. La région appelle
la
à un sursaut d'autorité.
La responsabilité de la direction de Sciences Po.
Donc en fait, on pourrait se dire, il n'y a pas vraiment de responsable, ce sont des députés qui mettent de l'huile sur le feu. En réalité, il faut juste remettre de l'ordre. Ce sont des minorités, donc en fait, on est dans un pays où c'est quand même la majorité qui gouverne. Donc en réalité, ces gens-là n'ont pas déclaré de manifestation, elle est interdite, elle aurait dû être évacuée dès le début par les forces de l'ordre.
On a les images de la Sorbonne en direct, on a nos
inspecteurs
qui sont là-bas. Gabriel Attal suit la situation de très près, c'est lui qui a demandé l'évacuation de l'intérieur Sorbonne. Est-ce que là, il va laisser suivre cette manifestation?
La difficulté, c'est qu'en matière de maintien de l'ordre, dès qu'il s'agit de manifestations étudiantes, à chaque fois, c'est le sujet le plus sensible qui existe quasiment à la préfecture de police de Paris. Donc, on se dit à chaque fois, avec les étudiants, faire très très attention, parce qu'un drame peut toujours arriver. Mais je pense qu'à un moment donné, à partir du moment où le gouvernement cherche à montrer qu'il a de l'autorité, qu'il essaie de remettre les choses à l'endroit... Il faut rappeler, il y a un cadre, il y a la loi. Ce sont certes des minorités. Si on dit déplorer, être victime de la dictature des minorités, bien dans ce cas-là,
Rachel.
Il faut rappeler que c'est la majorité qui gouverne. Et puis maintenant, faut rappeler un peu qui est le patron.
On est d'accord. Pas de régime dérogatoire en permanence.
Rien à faire ici.
Rachel Canrapi.
Non, mais là, ça va plus loin, en fait, que le maintien de l'ordre. C'est une question idéologique. On est dans un contexte, là, à la Sorbonne et Sciences Po, etc., dans quelque chose qui frôle avec le totalitarisme, avec cette meute dont vous parliez, avec ces intimidations, avec ces dogmes, avec la dénonciation du bouc émissaire, que ce soit les journalistes ou les juifs, avec cet antisionisme qui est le botox de l'antisémitisme et de la haine du juif profond. Donc ça, c'est encore plus fort que la question du maintien de l'ordre.
On peut dire stop, en fait. Le problème, c'est qu'on a l'impression que...
Ils disent rien. C'est très difficile. Rapidement, Éric.
Il y a des actions devant la justice.
Attendez, Louis.
Il y a les forces de l'ordre qui sont à la disposition du gouvernement.
Éric, rapidement, prends l'écoute.
Pour moi, il y a l'effondrement de l'autorité de l'État. On le constate partout. Alors, le Premier ministre a beau dire choc d'autorité, jamais plus, au grand jamais. On voit bien ce qui se passe. Puis en face, vous avez quand même LFI qui, à mon sens, cherche une sorte de chaos dans la rue. C'est-à-dire, par moment, je me demande si... trotskistes comme ils sont ou léninistes, je ne sais pas, ils n'essayent pas d'installer les ferments d'une sorte de petit mai 68.
Mais oui, ils veulent la 6ème République, ils veulent changer
On est à quelques jours des élections.
Une fois que Sciences Po a été évacué, ils ont demandé avec des grands communiqués
à ce que l'ensemble des universités françaises
se soulèvent.
Voilà. Mais moi, je voulais dire une chose. Qu'on puisse discuter à Sciences Po ou ailleurs de l'avenir d'un État palestinien et de la grande souffrance du peuple gazaoui, ça me semble normal. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens empêchent tout débat. Ils ne veulent pas
de débat. Ils veulent la violence.
Attendez, qui vont être hauts fonctionnaires dans les ministères français.
Ils ne sont pas tous. Alors, tous ceux qui sont devant, tous les illuminés ne sont pas étudiants.
Ça me fait quand même.
Je voudrais juste, avant la pause, qu'on écoute Yvan Attali, qui est l'invité de Radio J, Frédéric Aziza. Il a dit les choses de façon limpide. Voilà. J'aimerais qu'on l'écoute. Juste qu'on écoute Yvan Attali sur l'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays.
L'antisémitisme aujourd'hui virulent est à gauche, mais ça fait un moment déjà.
Et c'est pour ça que vous avez dit, on assiste à une orgie d'antisémitisme.
Ben, depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant. Les actes antisémites ont augmenté de combien?
1000 et quelques pourcents.
Ben voilà, ça devient délirant, c'est une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi.
Tout le monde, c'est-à-dire?
Ben, dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour... Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose que de l'antisémitisme. C'est pas une question territoriale. Donc c'est pour ça, en réalité, quand les gens disent « mais c'est quand même étonnant de voir toute cette jeunesse qui s'émeut pas pour le problème des musulmans, les Ouïghours, les au Soudan et machin, etc. » Ben non, mais évidemment. Évidemment, il y a un antisémitisme clair et net. Là-bas, on n'importe rien. C'est le même conflit. D'ailleurs, c'est l'antisémitisme. Je ne sais plus pour qui je dois voter. Je ne sais plus qui...
D'ailleurs, vous allez voter ?
Je ne sais pas.
Aux européennes ?
Je ne sais pas. Je ne sais plus pour qui voter. Je ne peux plus regarder le football, puisqu'ils sont tous anti-israéliens, anti-sionistes. Ils se drapent du drapeau palestinien dans les stades. Le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar. Donc, je ne peux plus être moi-même. Ouais. Je ne peux plus partager des choses avec d'autres Français parce que je sais que à des endroits, on veut me couper la tête. Oui, c'est pesant d'être juif.
Ouais, ouais.
Ça pourrait ne pas l'être.
Ouais.
C'est pas obligatoire que ce soit pesant, mais ça l'est. Ça veut dire, c'est pesant de vivre en diaspora, c'est pesant de vivre en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un juif peut vivre tranquillement sans penser qu'il est juif? Sans que ça lui pèse. Pour l'instant, non.
Quel constat, Rachel Kahn.
Ça fait du bien lorsque les artistes s'expriment, parce qu'ils ont des mots très justes sur la situation et sans tabou. On sent effectivement la colère, mais ce qu'il décrit à différents endroits, effectivement, il parle du 7 octobre qui a été ce déclic dans la banalisation. C'est-à-dire qu'on sentait, lorsqu'en 2014-2015, il y a eu des manifestations où il était crié « mort aux Juifs », on le savait. Et là, franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'il fait, c'est très courageux.
Chapeau, Yvan Attal. Audrey, merci beaucoup. Je voudrais juste souligner l'excellence du travail que vous faites sur le terrain,
merci.
Comme l'ensemble de la rédaction de CNews, nos journalistes reporters d'images, tous ceux qui sont sur, encore une fois, au plus près de l'actualité, et on confond souvent les gens qui sont à l'antenne et la rédaction. C'est vous qui faites vivre nos émissions. C'est grâce à vos reportages, vos interviews, ce que vous faites sur le terrain, qu'on peut faire vivre nos émissions et que CNews connaît un succès grandissant. Donc, merci beaucoup. C'est un véritable hommage que je voulais vous rendre ce soir. C'est pour ça que je voulais que vous soyez là, ma chère Audrey, donc représentante de cette rédaction de CNews, que j'aime beaucoup.
Quel honneur.
Oui, et puis voilà, qui travaille formidablement bien. Donc, merci beaucoup à vous. Continuez. On est avec vous. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On va accueillir nos amis d'Europe 1. On va revenir sur ce qui s'est passé à Châteauroux, qui est absolument effarant. La mort de ce jeune de 15 ans, avec deux personnes interpellées, deux avant, un jeune de 15 ans et sa mère. A tout de suite, dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au départ, il y a eu la peur. La peur pour nous ou nos enfants d'être agressés pour un mauvais regard ou une cigarette refusée. Puis il y a eu la colère en voyant le nombre de victimes s'accumuler sans que l'appareil judiciaire n'arrive à stopper les parcours de délinquance qui commencent désormais dès 13 ou 14 ans. Aujourd'hui, il y a la révolte lorsque l'on regarde les visages de ceux qui ont été massacrés, de Lola à Shemseddin, de Philippe à Chaïna, en passant par Zakaria. Et puis la nausée, puisqu'à Châteauroux, l'assassin qui a poignardé Mathis, 15 ans, venait de sortir de garde à vue après un vol avec violence lors duquel il avait déjà brandi un couteau. La mère de cet Afghan de 15 ans, en situation régulière sur le sol français, a elle aussi été interpellée. Elle est soupçonnée d'avoir porté des coups au jeune Mathis qui agonisait au sol en baignant dans son sang. L'horreur qui se rajoute à l'horreur. Honte à ceux qui tentent ce soir d'inverser les rôles au prétexte que Mathis aurait insulté ce jeune Afghan avant de recevoir des coups de couteau mortels. Honte à ceux qui tentent de faire passer le bourreau pour la victime. La violence gratuite et surtout impunie, c'est toujours la fin de la démocratie et le début de la barbarie. Nous n'en sommes hélas pas loin. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. La police a évacué les militants pro-palestiniens de la Sorbonne. Ce matin, des tentes avaient été installées dans la cour historique de l'université. Une centaine de personnes sont toujours présentes à l'extérieur des locaux avec un drapeau palestinien et des slogans « Israël assassin, Sorbonne complice ». Gérard Depardieu a été placé en garde à vue à Paris. L'acteur doit répondre d'accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes. Il est déjà mis en examen depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle après la plainte de la comédienne Charlotte Arnoux. Une trêve de 40 jours a été proposée au Hamas. Elle prévoit également la libération d'otages et de milliers de prisonniers palestiniens. Le secrétaire d'État américain appelle les dirigeants du mouvement terroriste à prendre une décision rapidement. Enfin, 206e jour de détention pour les otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Orad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02 pratiquement. On est en direct avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Avec Rachel Kahn.
Bonsoir
Rachel.
Laurence.
Joseph Massescar.
Bonsoir Laurence.
Essayiste. Merci d'être là. Naïma M. Fadel. Ravi de vous accueillir. Bonsoir. Ainsi qu'Éric Revel. On va tout de suite prendre la direction de Châteauroux pour voir ce qui s'est passé après le meurtre abominable de Mathis, 15 ans, ce samedi. C'est un réfugié afghan du même âge qui lui a porté plusieurs coups de couteau dans la rue. Ce dernier et sa mère, c'est ce qui est absolument abominable, ont été déférés devant un juge. Elle a notamment donné plusieurs coups au jeune qui agonisait au sol. On va tout de suite écouter Gilles Averroux, le maire de Châteauroux, qui voit là l'ensauvagement de notre société. Et puis on partira sur place, rejoindre nos envoyés spéciaux. D'abord le maire de Châteauroux.
Les deux protagonistes, l'auteur comme la victime, ont 15 ans. Ça, c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. Il y a besoin aujourd'hui de prendre des mesures rapides. Je sais que le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours et a donné, je crois, un délai de 8 semaines pour pouvoir faire des préconisations. Mais il est vraiment très, très urgent de redéfinir une politique en la matière qui soit à la fois sur le plan judiciaire, avec des moyens pour la justice de pouvoir peut-être plus facilement priver de liberté des jeunes de moins de 16 ans qui seraient mis en cause, puisque là, en l'occurrence, le meurtrier, à deux reprises, il a été interpellé ces dernières semaines. Moi, j'avais connaissance que d'un fait qui a eu lieu il y a 8 jours pour un vol avec violence, vol aggravé, hein, et donc qui n'avait pas permis à la justice une incarcération.
Voilà pour le constat du maire de Châteauroux. On va tout de suite rejoindre sur place Célia Barot et Bambagay. Bonsoir à tous les deux. Qu'est-ce que l'on sait exactement, Célia, de ce qui s'est passé au moment du drame? Expliquez-nous.
Eh bien, ici, dans le quartier Saint-Denis de Châteauroux, aux alentours de 17h30, 18h, Mathis a reçu plusieurs coups de couteau dans le thorax et dans le dos de la part de ce jeune Afghan de 15 ans également. Une agression, une violente agression dont le motif, pour l'instant, reste inconnu. Les enquêteurs doivent établir les circonstances exactes de ce drame. Certains parlent d'un vol de téléphone, d'autres de menaces racistes, d'insultes racistes. C'est notamment ce qu'a déclaré le jeune Afghan de 15 ans aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Il a expliqué que Mathis l'avait frappé plus tôt dans la journée, qu'il l'avait insulté, il avait fait référence à Ben Laden et qu'il lui avait dit de retourner dans son pays. Comme vous pouvez le voir pour les téléspectateurs de CNews, sur les images de Bambagay, plusieurs roses blanches ont été déposés sur le lieu du drame. Des bougies sont allumées. Plusieurs jeunes, et c'est ce qui est le plus frappant, le plus émouvant, se réunissent depuis ce matin ici. Certains pleurent la mort de leurs camarades, de leurs voisins. C'est l'incompréhension et l'émotion totale qui envahit ce quartier de réputation pourtant calme et tranquille. Les gardes à vue ont été levés. Les deux interpellés, donc la mère et le fils, doivent être jugés par le juge d'instruction. Nous attendons la décision de justice pour connaître les suites de l'enquête, puisque maintenant l'enquête va devoir établir également le contexte, le mobile, puisque différents témoignages s'opposent. Il y a l'implication de cette mère de famille de 37 ans qui, selon plusieurs riverains, aurait porté des coups à Mathis lorsqu'il était en train de demander à l'aide. Il était en train de suffoquer quand cette mère de famille lui a porté les derniers coups, des coups de poing en plein visage. Les témoins sont choqués. Ils culpabilisent de ne pas être intervenus plus tôt, mais l'heure, comme l'a rappelé le maire de la ville, est au recueillement et un hommage sera organisé dans les jours à venir.
Merci Célia Barotte-Mambaye pour ces informations. Naïma Mpadel, je suis comme vous. Moi, je suis horrifiée de ce drame et de l'attitude de la mère de ce jeune de 15 ans, afghan, qui va porter des coups de poing à un enfant qui baigne dans son sang, qui a le même âge que le sien.
Qui l'a achevé, en fait.
Je ne sais pas si elle l'a achevé, mais
de frapper
un gamin qui a été touché.
Elle l'a frappé, il était par terre, il était déjà en sang, et elle a continué à lui porter des coups. C'est l'horreur absolue.
Il y a une faille anthropologique, là. On n'est pas dans le même monde.
C'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure. C'est qu'il y a aussi, on est dans le choc des civilisations, le choc des cultures. Il faut comprendre que, et il faut l'admettre. Il faut l'admettre pour trouver des réponses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut l'admettre pour trouver des réponses et mettre en place des modes d'intégration, et en tout cas de connaissance de ce qu'on ne peut pas faire dans notre pays. Mais il faut absolument qu'aujourd'hui, on ait un pays très généreux, on accueille avec générosité, etc. Les Afghans sont accueillis, vous savez, par principe, c'est-à-dire
droit d'asile.
Ils ne sont même pas étudiés parce qu'il y a les talibans. Aujourd'hui, on ne peut pas rester à égrener nos morts et puis à mettre des bougies, des fleurs, des marches. Ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable parce qu'on se dit cet enfant, ce pourrait être le nôtre.
Bien sûr. Aujourd'hui, Louis de Ragnel, la première nationalité demandeur d'asile, ce sont les Afghans, selon l'Office français de l'immigration.
Absolument, pour les demandes et puis après pour les délivrances, c'est aussi une nationalité qui est très représentée, sachant que tous les pays de l'Union européenne n'avaient jusqu'à il y a 2 ans pas harmonisé les critères de l'asile. Je prends un exemple, jusqu'à la chute de Kaboul il y a 2 ans, aux mains des talibans, et bien l'Allemagne n'octroyait pas du tout aussi largement que nous les demandes d'asile pour ceux qu'ils demandaient qui étaient ressortissants afghans. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a rien qui, enfin, tout est caricatural dans cette histoire. Premièrement, donc, on l'a dit sur, donc, c'est quelqu'un qui vraisemblablement est issu d'une famille de réfugiés afghans. Donc, on leur offre l'hospitalité, l'accueil. Voilà comment on est remercié. Et c'est comme ça que pensent les Français. Je pense qu'il va falloir, alors, c'est dans le débat public maintenant depuis 10 ans, mais il y a un moment, en fait, on ne peut plus, à chaque fois, il y a plein de gens qui disent oui, il faut resserrer les critères. Oui. Il va falloir être plus exigeant, plus de contrôle. En fait, maintenant, je pense que c'est stop. Faut arrêter. On n'a pas besoin de cette immigration-là. Et je pense en plus aussi, ça peut surprendre certaines personnes, mais plus on sera exigeant, plus on sera restrictif pour ces personnes-là, plus les véritables réfugiés, on aura des réelles capacités à les accueillir et vraiment à s'occuper bien d'eux. Et simplement un deuxième mot, et après j'arrête là-dessus. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est effectivement le comportement de la mère. De cet enfant qui raccompagne sur les lieux en voiture.
C'est-à-dire qu'elle a ramené son fils avec un couteau
avec
sur
un
les
couteau,
lieux.
Elle voit son fils qui est en train de poignarder Mathis. Elle sort de sa voiture et elle donne une gifle à Mathis dont le corps est gisant, inerte. Sur la chaussée, c'est quelque chose d'absolument abominable.
C'est glaçant.
Et puis cette espèce de litanie, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est pour ça que je pense que, à chaque fois, on se dit il faut resserrer, il faut revoir. Non, en fait, il faut que tout change. Quitte à passer par des mesures qui peuvent choquer certaines personnes, qui sont peut-être très difficiles. Mais
on va en reparler dans un instant, Louis. On sera avec la policière Linda Kebab, on reviendra sur ce qu'on peut faire face aux. Non, mais j'entends, on va en parler dans un instant. On parlera de ce qu'on peut prendre comme mesure pour juguler la violence des mineurs. Éric Revel, Joseph Massescaron, Rachel.
Oui, c'est insoutenable. Bon, il n'y a pas de mots plus forts. Ce que j'aurais à vous dire quand même, vous parliez de fracture anthropologique, pardon, mais le modèle français d'intégration ne peut pas mettre en place un moule spécifique pour les Libyens, un moule spécifique pour les Irakiens, un moule spécifique pour les Syriens et un moule spécifique pour les Afghans. Donc ça veut dire qu'en réalité, oui, je pense qu'il faut arrêter cette immigration. Il faut arrêter cette immigration parce qu'on voit bien qu'on n'a plus la possibilité d'intégrer des gens avec leurs qualités et leurs défauts, mais qui appartiennent à des cultures qui sont à des années-lumière des nôtres. On n'est plus dans une immigration italienne, espagnole, polonaise. C'est tout à fait différent. Et puis, vous savez,
J'ai en tête, parce que là, on parlait de bougies, de nounours et
de marche blanche, parce qu'il faut rendre hommage.
Cette chanson de Calogero, un jour au mauvais endroit où il relate.
Il y a des bounas.
Où il relate, il y a deux personnages dans sa chanson, Sofiane et Kevin. Et en fait, c'est un gosse qui vient de se faire tuer par un autre gosse. Et le refrain entêtant, c'est plus jamais ça, plus jamais ça. Bon, et ben cette chanson, elle date, je regardais, il y a 10 ans. Il l'a créé en 2014. Depuis, c'est pas plus jamais ça.
C'est tous les jours.
C'est tout. Oui.
Alors, vous avez raison, Eric.
Non, non, mais c'était contre la police.
Terminé, Eric Revel. Je voudrais entendre Joseph Massescaro.
Mais cette chanson, elle était frappante.
Joseph.
Ça se passait à Chirol.
Sur ce qui s'est passé à Châteauroux.
Absolument.
Il y a certainement une faille anthropologique. Je reprends le terme qui a été pris. Mais ces mêmes personnes, est-ce qu'ailleurs, ils se permettraient les mêmes choses? Est-ce que chez eux, ils se permettraient les mêmes choses? Très franchement, moi, je n'en suis pas sûr. Je ne voudrais pas essentialiser. S'ils se permettent cela sur notre sol, c'est tout simplement parce qu'ils savent bien, fondamentalement, ils ont intégré le fait qu'il n'y aura pas de réponse, qu'il n'y aura pas de réponse pénale. C'est ça aussi qui est un élément important. D'accord. Le deuxième point, moi, ce qui me frappe, j'ai eu plein de conversations, comme nous tous ici depuis hier. Réellement, enfin, toute personne aujourd'hui qui est parent, qui a un adolescent de 11 en gros à 15 ans, 16 ans, a peur. Aujourd'hui, tout parent en France, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, a peur. Et il est évident qu'un gouvernement ne peut pas rester avec ce sentiment d'insécurité pour les parents. C'est juste fou.
Vous avez raison. Rachel Kahn, il y a aussi cette petite musique qu'on entend. Oui, mais il l'avait insulté. Oui, mais voilà. Oui.
Déjà.
Encore une fois, on veut inverser les choses.
On veut inverser.
Faire passer la victime pour le bourreau.
Ce mécanisme-là, on n'en peut plus. C'est vraiment. Et justement, ce mécanisme-là, on parlait d'intégration, mais c'est à cause de ce mécanisme-là qu'on peut poser la question intégrer à quoi si on ne remet pas la règle tout en haut, en fait, de notre pyramide, de la hiérarchie des normes, etc. Moi, ce qui m'attriste, effectivement, dans cette inversion, c'est que nous ne sommes plus capables de pleurer nos enfants victimes ensemble. C'est-à-dire que maintenant, c'est des instrumentalisations, notamment, là on le voit bien, de cette extrême gauche qui est silencieuse sur ce qui s'est passé par rapport à Matisse. Mais c'est absolument honteux. Nous avons perdu l'un de nos enfants.
Trop occupés à Sciences Po et à Sorbonne.
Voilà. Mais c'est par des manœuvres clientélistes. Donc, il ne s'offusque pas qu'un enfant, un citoyen de 15 ans, qui avait toute sa vie devant lui, soit mort sous les coups
Absolument. Alors, on fait une petite pause. On en reparlera tout à l'heure avec Linda Kebab, qui sera notre invitée à 18h30, déléguée nationale unité police. On fait une pause. On va parler de ce qu'est la situation à la Sorbonne. Une nouvelle occupation des lieux aujourd'hui. Et puis aussi Sciences Po, ce qui s'est passé il y a quelques jours. Est-ce qu'on est en pleine déliquescence des universités françaises? La réponse dans un instant dans le prochain. 18h17, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va maintenant prendre la direction de la Sorbonne, puisqu'après l'occupation de Sciences Po, c'est désormais la Sorbonne qui est paralysée, qui a été en tout cas paralysée aujourd'hui par des manifestations pro-palestiniens. D'abord dans la cour d'honneur, qui a été évacuée par la police. Ils sont actuellement à l'extérieur de l'université. Maxime Legay et Fabrice Hester, bonsoir. Vous êtes devant la Sorbonne. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous, Maxime.
Bonsoir Laurence. Eh bien, écoutez, la manifestation touche en ce moment même à sa fin. Ils étaient plus d'une centaine d'étudiants et militants qui étaient rassemblés devant un grand drapeau de la Palestine et qui ont occupé depuis le début de l'après-midi la place de la Sorbonne devant la faculté du 5e arrondissement de Paris. Des étudiants qui ont scandé inlassablement Israël assassin, Macron complice, Free Palestine ou encore ce slogan à caractère antisémite from the river to the sea, Palestine will be free. Alors la plupart des étudiants ont un peu plus tôt dans l'après-midi, vous le rappeliez, investi la cour d'honneur de la Sorbonne, celle qui donne accès aux amphithéâtres. Ils ont été évacués manu militari par les forces de l'ordre et les étudiants se sont donc rabattus devant cette place de la Sorbonne pour une manifestation improvisée et donc illégale car non déclarée. L'appel au blocage avait été lancé sur les réseaux sociaux par l'UNEF, le collectif Point Levé ou encore l'UNEF l'Union étudiante. Les députés de la France insoumise, Thomas Porte, Louis Boyard, étaient présents sur place aux côtés des manifestants. Et puis il y a quelques minutes, c'est le député David Guiraud, muni de son écharpe tricolore, qui est venu s'exprimer au mégaphone à l'adresse des étudiants en leur apportant son soutien dans leur action. Le tout entre plusieurs selfies réalisées avec les manifestants. Alors au moment où je vous parle, les forces de l'ordre sont toujours devant la Sorbonne. Ils ont déployé un périmètre de sécurité pour boucler le secteur. Et puis un des leaders du mouvement a annoncé il y a quelques minutes au mégaphone que l'occupation touchait à sa fin. Mais les manifestants se donnent d'ores et déjà rendez-vous demain au même endroit à midi.
Merci beaucoup Maxime Le Guay et Fabrice Elsner qui sont sur place pour CNews et, sur, et pour Europe 1 en faisant attention à eux parce qu'on a une de nos équipes qui a été attaquée, agressée devant la Sciences Po il y a quelques jours et je rends hommage au travail d'Audrey Berthaud et de Raphaël Lazreg qui ont été prises à partie par certains manifestants pro-palestiniens. Joseph Massescaron, quand on entend les slogans qui sont criés devant la Sorbonne, ce sont les mêmes qu'on entendait devant Sciences Po, oui. En fait c'est la loi, on ne peut pas dire ce genre de choses dans notre pays. Pourquoi il ne se passe rien ? Alors, la police a évacué l'intérieur de la Sorbonne à la demande de Gabriel Attal. Mais on a l'impression qu'on l'espère, en fait. Et que la France insoumise attise les braises partout.
Oui, la démission, j'aurais employé le mot soumission, le mot de Houellebecq, c'est la soumission, elle est totale. La soumission des autorités, quand vous voyez, on a tous à l'esprit le communiqué de Sciences Po qui était un communiqué dément.
Il disait quoi, Joseph ?
En substance, il reprenait donc les argumentaires qui étaient définis, qui étaient présentés. Et en gros, ils estimaient qu'il pouvait y avoir discussion.
Comme un accord.
Même ensuite, après accord.
Allons vite là-dessus, mais vous avez raison.
Juste un mot, c'est qu'il y a eu un communiqué du Hamas hier. Et qu'est-ce que disait ce communiqué du Hamas hier ? Ce qui est extrêmement révélateur. Il condamner évidemment ce qui se passe aux États-Unis, où aux États-Unis, l'administration Biden a le courage de faire ce qu'il fait et de nettoyer les écuries d'OGIAS, parce que c'est, il faut parler d'écuries d'OGIAS, d'accord, aussi bien à Columbia qu'ailleurs.
Oui, il y a surtout les donateurs qui coupent les fonds.
Et c'est ça qui compte,
c'est l'ère de la guerre.
C'était un hommage aux gens de Sciences Po et à l'action de LFI. Donc ça montre que le Hamas soutient LFI, LFI soutient le Hamas, LFI...
Attendez, il y a mieux, Joseph. Il y a l'Ayatollah Khomeini,
l'Iranien, je reste juste au Hamas.
Qui a félicité les étudiants qui se mobilisent en France et dans le monde. Ils sont soutenus par le régime des Mollahs, donc.
C'est le Hamas, organisation terroriste. Aujourd'hui, les filles, c'est la branche politique, c'est l'expression, la branche politique du Hamas. Non, on est au-delà de tout. Quand aux étudiants, les étudiants soutiennent le Hamas. Comment peuvent-ils une seule seconde, évidemment, sauf par méconnaissance totale de ce qui se passe, oublier que le Hamas, c'est le pire pour la Palestine. Le Hamas, ce sont eux qui ont défenestré des centaines de militants du Fatah. Voilà.
Oui,
C'est le pire pour la Palestine, le Hamas.
Mais
voilà.
On est d'accord.
Et donc, tout ça est un non-sens permanent.
J'entends notre indignation. Je suis solidaire des journalistes de CNews qui ont été attaqués.
Oui.
Je pense aussi aux étudiants juifs qui ont peur d'aller dans ces facs, qui ont peur de porter des signes ostentatoires de leur religion, évidemment. C'est insupportable.
Non, mais justement, la direction a accepté, dans l'accord, de discuter avec cette minorité d'étudiants sur le fait de continuer la coopération avec les universités israéliennes et je crois aussi des entreprises israéliennes. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que le pouvoir qu'on donne à une minorité, parce qu'il faut rappeler, je voudrais vraiment insister sur ça, que vous avez 14 000 étudiants à Sciences Po. Ceux qui ont occupé, il y avait environ 40. À l'extérieur, il y avait aussi une minorité d'étudiants Sciences Po qui ont été rejoints par Révolution Permanente,
et la France insoumise. D'accord. Combien ont été sanctionnés ?
Zéro sanction. Mais c'est ça qui est grave. Et comment voulez-vous que le Hamas et puis Khamenei, enfin les Mollahs, ne reprennent pas ça en disant regardez, même chez eux, les étudiants, etc.
Mais il y a un moment pour que la majorité reprenne le pouvoir aussi. Parce qu'en fait, on parle toujours de la dictature des minorités, mais il y a un État, il y a un pouvoir de contrôle de la direction a un pouvoir de sanction. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut remettre de l'ordre. juste citer. Il y a des manifestations illégales sur la voie publique, elles peuvent être
récupérées. Je vais citer juste un bout de phrase qui est la fin du communiqué du Hamas. Ce bout de phrase, c'est « Les étudiants d'aujourd'hui sont les leaders de demain ». Voilà. Donc ça veut dire que
on a les leaders qu'on peut donc.
Non mais qu'est-ce que nous on nous prépare avec ce type de logique.
Alors, soutiennent le Hamas Rachel. Qui a commis le 7 octobre un pogrom qui a tué des femmes, des enfants, des vieillards, qui a violé des jeunes filles et qui les a exhibées devant une foule en liesse. C'est ça qui est grave.
Mm-hmm. Alors Rachel.
Non mais ce qui est grave et effectivement on a oublié, on est très très loin du 7 octobre, on est très loin de penser à nos trois otages français et puis on est dans ces jeunes gens, en fait, qui mériteraient simplement d'avoir des règles une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les adultes qui donnent les règles aux enfants et pas l'inverse. Ces personnes qui sont instrumentalisées aussi et chauffées par LFI et autres, qui sont très tristes d'être nés trop tard et se font croire qu'ils sont les Thomas Sankara, les Rosa Parks d'aujourd'hui. En tout cas, en sous-texte, ils sont en train de nourrir la solution finale 2.0. Et je pense à ces petits, à ces étudiants qui vivent leur judaïsme clandestin et qui ne peuvent pas aller apprendre et se faire une vie qu'ils doivent se construire à la Sorbonne.
C'est tout à fait juste. Nous sommes en train de créer une génération de maranes, si ça continue.
C'est quoi les maranes ?
Les maranes, ce sont les personnes qui, à l'époque de l'Inquisition, les Juifs étaient obligés de se cacher. Nous sommes en train de créer en France une génération de maranes.
On sera beaucoup à ne pas laisser faire. Et je regrette que le gouvernement, justement, et que la direction ait autant capitulé. C'est vraiment triste.
Éric Revel, la stratégie de la France insoumise, c'est d'attiser les braises. On le sait. Là, que ce soit Manuel Bompard, Rima Hassan, Manon Bry, ils appellent tous à des mobilisations d'ampleur. Ils appellent au soulèvement.
Oui, Rima Hassan a fait un tweet ce week-end où elle
appelle. Non, mais elle a parlé de la mobilisation générale facs ce matin.
Oui, on a le sentiment qu'ils cherchent, le
grand soir.
Le chaos. Alors, ils s'appuient quand même, je ne minimise pas l'action des étudiants de Sciences Po, mais ils s'appuient pour l'instant sur des révolutionnaires un peu en peau de lapin, pardonnez-moi. Ils sont pas très nombreux. Ils sont dangereux.
Non, mais ils sèment la terreur dans les facs.
Mais bien sûr. Alors justement, je voulais aborder ce point-là. Parce qu'en fait, il y a une véritable terreur intellectuelle. Pourquoi se communiquer d'une direction par intérim, pour l'instant, de Sciences Po qui se couche? Parce qu'en réalité, il faut savoir que le mode de fonctionnement, par exemple, d'un prof à Sciences Po, il est évalué par les élèves. Donc tout prof qui prendrait le risque de ne pas être dans le rail idéologique d'une partie de la minorité prendrait le risque peut-être d'avoir des ennuis pour son poste à la fin de l'année. Donc la direction se couche, pas de vague. Il y avait un prof qui était interrogé ce week-end de Sciences Po sur CNews, déjà. Oui. Il a pris un risque considérable.
Très intéressant ce qu'il dit.
Très intéressant, mais un peu en dedans, mais un peu quand même apeuré, mais un peu en difficulté, parce qu'en fait, il y a une terreur intellectuelle qui se répand à Sciences Po, dans les facs françaises, sur le modèle de ce qui s'est passé à Columbia, au MIT, au Harvard, et qui est en train de submerger, en fait, les profs, les directions, les organisations de ces lieux scolaires.
Non, mais ce qui se passe, c'est quand même absolument terrifiant, parce que c'est dans tous les établissements. Alors là, on parle de Sciences Po, de la Sorbonne, mais c'est dans tous les établissements. Il y a un directeur d'école à Neuilly-sur-Marne qui veut démissionner, parce que il a essayé de tester la formule du port de l'uniforme. Il est menacé de mort. C'est dans toutes nos écoles pareilles.
Pour l'instant, dans les facultés ou à Sciences Po, qu'il s'agisse de Reims ou qu'il s'agisse de Paris, ce sont des endroits quand même privilégiés. C'est-à-dire que les personnes qui vont manifester, de toute manière, sont sûres que tôt ou tard, lorsqu'ils vont sortir du parcours universitaire, vont trouver un emploi. Mm-hmm. D'accord ? Donc, ils empêchent tous les autres qui se servent de ça justement pour accéder à un emploi, de travailler.
Rachel. Et puis depuis le 7 octobre, pardon de le répéter, mais on est dans les vieilles méthodes du bouc émissaire, du juif, de cette haine, de la haine des journalistes, de ceux qui font savoir. Je pensais que les défenseurs des droits de l'homme, et notamment du droit international, normalement on doit défendre ce droit à l'information.
Vous les entendez ?
Rien du tout.
C'est
un silence. Mmh. Un silence. Mais que le 7 octobre, finalement, est permis pour certains parce que le peuple juif était à mal, la diaspora et Israël étaient mis à mal, que ça ait libéré finalement cette parole de haine, parce que là, les personnes que l'on voit ici, ce ne sont pas des pro-palestiniens, ce sont juste des personnes haineuses.
D'accord. Ils ne pensent pas à la cause palestinienne, Naïma, c'est ça ?
Exactement. Ils délégitiment même la cause palestinienne parce que la cause palestinienne ne peut pas soutenir ce qui s'est passé le 7 octobre. Et rappelons-nous qu'il y avait eu un sondage juste avant le pogrom du 7 octobre où les Gazaouis en avaient assez de la, des conditions de vie et du Hamas. Totalement. Ça a été réprimé dans le sang.
Oui. Bien sûr. Mais là, eh bien, tout le monde parade devant nos facs et nos universités. On continue le débat juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pratiquement 18h30. Mathieu Devez nous a rejoint. Mathieu.
La région Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po Paris, décision prise par la présidente de la région Valérie Pécresse. Elle pointe du doigt une minorité de radicalisés qui appelle à la haine antisémite instrumentalisée par la France insoumise et ses alliés islamo-gauchistes. Le gouvernement va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique, une annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Cela fait suite aux propos du leader insoumis qui avait comparé le président de l'université de Lille au nazi Adolf Eichmann. Jean-Luc Mélenchon parle d'une diversion sans objet pour faire oublier le crime que nous combattons, le génocide des Palestiniens. Fin de citation. Fin du suspense. En Espagne, le Premier ministre annonce qu'il reste à son poste. Pedro Sanchez disait réfléchir à démissionner après l'ouverture, la semaine dernière, d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption.
Merci Mathieu Devez. Noémie Schultz, bonsoir, du service police-justice de CNews. On va évoquer avec vous, bonsoir, la garde à vue de Gérard Depardieu. Il a été placé en garde à vue ce matin à Paris dans le cadre des enquêtes pour agression sexuelle qui le vise. Noémie, de quelle affaire parle-t-on exactement dans le cas précis?
On parle de deux affaires distinctes. Gérard Depardieu était convoqué par la police judiciaire. L'acteur est visé par deux plaintes. La première, déposée en février dernier par une décoratrice qui travaillait sur le film Les Volets Verts de Jean Becker. Elle accuse Gérard Depardieu de l'avoir agressée sexuellement en septembre 2021. Elle évoque des propos graveleux. Elle a indiqué que l'acteur l'avait un jour agrippée avec brutalité, lui aurait pétri la taille, le ventre en remontant jusqu'à sa poitrine. Selon Mediapart, une confrontation était organisée cet après-midi entre cette femme et le comédien. La seconde plainte avait été déposée par une ancienne assistante de tournage. Les faits qu'elle relate sont plus anciens, 2014, selon le courrier de l'Ouest qu'il avait rencontré. Cette jeune femme a elle aussi dénoncé des propos obscènes, des propositions sexuelles et une agression sexuelle sur le tournage d'un film de Jean-Pierre Mocky. Le comédien, âgé de 75 ans, est déjà mis en examen, on le rappelle, pour viol et agression sexuelle sur une jeune comédienne, Charlotte Arnoux. Il a toujours nié ses faits. Plus d'une dizaine de femmes l'ont par ailleurs accusé, notamment sur le site de Mediapart. « Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme », avait-il dit dans une lettre publiée dans le Figaro. C'était en octobre 2023. Aujourd'hui, ses avocats n'ont pas répondu à nos sollicitations. Cette garde à vue entamée dans la matinée peut durer jusqu'à 48 heures.
Merci beaucoup Noémie Schultz. Rachel Kahn, on voit que les plaintes se poursuivent, l'action en justice avance. On parle de deux affaires distinctes des deux premières et qui visent Gérard Depardieu, évidemment, un acteur dont Emmanuel Macron a dit qu'il est un monument national.
Oui, ben ça, au niveau artistique, on ne peut pas dire le contraire. Après, c'est vrai qu'il est temps maintenant d'avoir effectivement les résultats de cette cette longue histoire avec toutes ces plaintes, etc., et des choses très tangibles, parce que là on a le sentiment que suite à ces écrits c'est finalement des voix qui se confrontent sans avoir cette matière. Donc ça serait bien, puisque la présomption d'innocence est quand même un principe fondamental, ça serait bien d'avoir des nouvelles informations sur...
Allez, un dernier mot, Noémie.
Non, à l'instant, on apprend que l'avocat de Gérard Depardieu est sorti du commissariat et qu'il a indiqué que les auditions étaient terminées et que Gérard Depardieu n'était plus au commissariat. Je ne sais pas si la garde à vue est terminée ou si elle va se poursuivre demain.
Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Linda Kebab, déléguée nationale unité du syndicat de police, sera notre invitée. On va revenir sur ce qui s'est passé à Châteauroux. Beaucoup d'informations qui nous viennent de Châteauroux avec les détails de cette agression absolument barbare contre le jeune Mathis, 15 ans. On viendra nos envoyés spéciaux et on sera avec Linda Kebab. A tout de suite dans Punchline. — 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Linda Kebab est notre invitée. Bonsoir.
— Bonsoir.
— Déléguée nationale du syndicat de police Unité. Bienvenue à vous dans Punchline. On est tous frappés par l'horreur de ce qui s'est passé à Châteauroux. Linda Kebab, avec la mort de ce jeune Mathis, 15 ans, dans des circonstances abominables, poignardé par un jeune de nationalité afghane en situation régulière sur le sol français, poignardé. Et la mère de ce dernier a ensuite donné des coups au jeune Mathis qui agonisait dans son sang. C'est des scènes d'une violence telle, on questionne la parentalité, mais dans ce cas-là, on ne peut pas la questionner. La violence, elle se transmet en réalité. Comment les policiers que vous êtes, parce que c'est vous qui arrivez en premier sur les lieux, réagissez dans ce type de cas ?
Dans ce type de situation, en particulier à Châteauroux, je tente de me faire la porte-parole de mes collègues de Châteauroux qui m'expliquent les difficultés qu'ils rencontrent dans cette ville, mm-hmm. que beaucoup de Français ne situent pas sur une carte, mm-hmm. mais que malheureusement, de plus en plus de délinquants arrivent à trouver très aisément.
Pourquoi ?
Le commissariat de Châteauroux, c'est 2-3 geôles qui sont perpétuellement pleines. Alors que c'est quelque chose pleine. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui un afflux, notamment, en fait, vous avez un fonctionnement très communautariste, et notamment, par exemple, des Afghans qui sont arrivés pour la plupart en France en bateau et qui ont trouvé à Châteauroux un écrin de vie assez agréable. Malheureusement, ça a généré aussi peut-être une mauvaise insertion de cette population, peut-être une mauvaise intégration. Eh bien, ça a généré beaucoup de délinquance. Des mineurs isolés également qui arrivent à Châteauroux. Mmh. On n'aurait pas cru. Et pourtant, la ville en souffre également. Et puis, les policiers me disent, on a des gamins de 12 ans... qui, a priori, ne poseraient pas problème, qui nous font, je suis désolée du terme, nous font des doigts à 12 ans. Dans la rue, on parle quand même de Châteauroux, on est loin des,
on parle de Châteauroux, des quartiers policiers, difficiles. On met les choses en
oui,
place.
Oui, et puis des policiers qui nous disent que la ville, pourtant qui n'est pas connue comme étant une ville extrêmement dangereuse, commence à connaître malheureusement les fléaux des grandes villes. Sur ce drame, malheureusement, alors vous savez, j'ai pas l'habitude de commenter les faits aussi dramatiques, soit-il les faits divers. Néanmoins, c'est important quand même, vous l'avez très bien dit, de questionner la parentalité.
Mais là, vous la questionnez.
Je vais garder.
La mère est venue frapper un enfant oui. du même âge que le sien. Qui est en train de mourir.
Je vais garder des éléments de cette enquête qui sont secrets, mais on est dans une famille déstructurante et déstructurée.
D'accord.
Je vais cibler personne, mais il y a de l'alcool, il y a de la violence, il y a un déclin éducatif sans équivoque et un jeune qui depuis peu faisait parler de lui.
Qui a été interpellé 2 fois avant.
Qui avait été interpellé. Moi, ce qui m'interroge, c'est au final la politique judiciaire que l'on mène à l'égard des mineurs. Il ne s'agit pas, encore une fois, de pousser tous les mineurs à aller en prison ad vitam, mais il s'agit de dissocier les infractions entre elles. Il faut savoir que, et le procureur l'a très bien précisé, le code de justice pénale des mineurs ne permet pas la détention provisoire pour un mineur qui n'a jamais été condamné et qui commet un délit. Sauf que le délit, ça va de quoi ? Ça va de la bagarre de récré au vol avec menace en posant un couteau.
Qui a été
sur le cou d'une personne, c'est ce que cette personne a commis quelques jours auparavant. On ne peut pas mettre tout dans le même panier et estimer qu'un mineur qui aurait commis un délit ne devrait pas être traité plus sérieusement. Alors oui, la détention provisoire n'était pas possible parce que justement ce code ne permet pas qu'un mineur soit détenu étant donné qu'il n'avait commis qu'un délit. Néanmoins, je suis désolée, mais en France, on est en échec judiciaire total. Pourquoi ? Parce que les contrôles judiciaires, ils devraient être accompagnés de beaucoup de mesures. Des mesures sociales, des mesures d'accompagnement des familles pour celles qui sont dépassées, mais coercitives pour celles qui sont démissionnaires, des mesures qui permettraient de suivre, de faire rencontrer par exemple un pédopsie, notamment le mineur qui est mis en cause, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc aujourd'hui, on met un mineur en contrôle judiciaire et puis on le laisse dans la nature.
On va juste prendre la direction de Châteauroux, Linda Kebab, pour rejoindre Célia Barotte et Bambagay, nos envoyés spéciaux. Célia, on a de nouvelles informations qui nous parviennent sur ce drame qui a donc coûté la vie à Mathis.
Oui, alors le parquet nous avait fait savoir que Mathis avait reçu plusieurs coups de couteau dans le thorax et dans le dos. Selon une source proche du dossier, la mère du suspect est soupçonnée d'avoir giflé à plusieurs reprises Mathis alors qu'il venait d'être poignardé. On apprend également que selon les premiers éléments, Mathis et d'autres personnes étaient venues ici dans le quartier Saint-Denis à bord d'une voiture, une voiture de type carcasse abandonnée. Quand son agresseur est arrivé, il l'a poignardé. Mathis est sorti et a tenté de fuir, mais il est tombé suite à sa blessure. Le suspect l'aurait alors à nouveau poignardé. Selon cette même source, face aux enquêteurs, le suspect afghan de 15 ans durant sa garde à vue a expliqué que Mathis l'avait frappé plus tôt dans la journée, qu'il l'avait insulté, je cite, de fils de Ben Laden et il lui a dit de retourner dans son pays. Les investigations ne sont pas finies, Laurence, puisqu'il va falloir pour les enquêteurs établir les circonstances exactes du drame, le déroulé des faits.
la chronologie également, mais aussi la responsabilité de chacun des protagonistes, savoir s'il y a d'autres personnes impliquées dans cette rixe. Et puis, nous avons pu nous entretenir quelques minutes avec le père de Mathis. Il est encore très ému, sous le choc, on peut le comprendre. Il vit un drame insurmontable. Il nous a fait savoir qu'il était dans l'incapacité de s'exprimer dans les médias, car pour lui, c'est encore un choc. Il veut se retrouver en paix. Il a récupéré les nombreuses fleurs qui ont été déposées devant son établissement gastronomique. Il tient un restaurant dans le centre-ville de Châteauroux, et puis des fleurs qui ont été déposées devant son établissement, mais aussi également sur le lieu du drame. Vous pouvez le voir, toute la journée, de nombreuses fleurs blanches, des bougies ont été déposées par des riverains, par de nombreux jeunes, des camarades de classe et de l'apprentissage de Mathis, des riverains, des familles, des personnes qui ne connaissaient pas Mathis mais qui se sentent concernées et qui en ont marre de ces violences juviniles.
Merci Célia Barraute Bambagay pour ces informations depuis Châteauroux. Je voudrais amener une question à Linda Kebab.
Oui, Linda Kebab, vous parliez tout à l'heure du fait que aujourd'hui vous voyez régulièrement des jeunes de 12 ans qui insultent, qui font des doigts d'honneur aux policiers. Là, on voit donc de l'ultra-violence qui entraîne la mort avec des mineurs de 15 ans. On voit que le sujet n'est pas uniquement, exclusivement judiciaire. Parce que souvent, on met tout un peu sur le dos de la justice. Vous, comment est-ce que vous analysez le fait qu'à 12 ans, un enfant fasse des doigts d'honneur, qu'on tombe dans l'ultra-violence dès le plus jeune âge ?
Il y a un problème de structure familiale. Très évidemment, il y a les familles qui sont dépassées. On parle souvent de monoparentalité, etc. Mmh. Et donc des parents qui ne savent plus y faire. Mais il y a de toute façon, et nous on le constate au fil des enquêtes, que malheureusement, souvent, il y a des parents qui sont démissionnaires, voire même qui sous-estiment les actes de leurs enfants, qui viennent récupérer leurs enfants au commissariat et qui en même temps sous-estiment les actes qui ont été commis, voire même fustiger les policiers qui ont pu engager une enquête.
Ils peuvent vous insulter au passage.
Bien sûr, mais c'est très régulier. Et puis il y a des parents qui sont complices. Dans ce genre de fait, rien ne justifie de tuer un enfant de 15 ans. Quelle que soit l'injure.
Et que sa mère...
Oui, il ne faut pas essayer de renverser les rôles. Voilà.
On nous dit souvent, lorsqu'il y a une action de police et qui entraîne à mort, le pire des criminels ne devrait quand même pas mourir d'une balle de la police. Ok, alors ça, hors toute enquête, on est d'accord. On l'entend très régulièrement de la part de militants. Eh bien, on peut aussi retourner la situation et dire que la pire des injures ne mérite tout simplement pas de mourir. Et donc, d'entendre, d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à entendre, des gens qui justifient ce coup de couteau au motif qu'il aurait proféré des injures.
C'est insupportable.
C'est, comme vous le dites, insupportable. Et évidemment que l'acte de la mère est extrêmement symbolique. Quand elle vient s'acharner sur un corps agonisant d'un adolescent, ça en dit long. De toute manière, c'est un adolescent qui est très connu, avec une famille qui l'est également, et qui malheureusement n'apportait pas la structure nécessaire pour cet ado. Il y a environ...
On a l'impression qu'on ne peut rien y faire, en fait.
Alors, on peut y faire quelque chose, c'est une question de volonté. Tout à l'heure, vous disiez, on ne peut pas tout reposer sur la justice, mais c'est surtout sur la politique judiciaire, la politique pénale. Et la politique pénale, c'est un ensemble. C'est aussi les mesures de prévention et d'éducation bien en amont. C'est l'accompagnement, la surveillance des familles qui pourraient éventuellement poser problème. C'est des moyens qui sont mis aux côtés des acteurs des services sociaux, par exemple, mais également de l'éducation nationale. Il y a aussi la question de la gestion des communautés quand elles arrivent en matière d'immigration. Comment est-ce qu'on parvient à les intégrer dans des villes moyennes comme Châteauroux? Et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces familles se sentent totalement concernées par l'éducation de leurs enfants? Donc au final, la réponse, elle reste quand même une politique judiciaire. En cela que si on n'a pas, de la part de ses parents, des réponses claires en matière de parentalité, eh bien on doit pouvoir aussi sévir. Je suis désolée, mais il n'y a que 3% des jeunes, souvent on parle de la violence des jeunes en France, c'est souvent dans le débat, il n'y a que 3% des jeunes qui en réalité posent problème en France. 3%, ce n'est pas beaucoup.
Mais on en parle tous les jours.
Sauf qu'on en parle tous les jours, parce qu'ils ne sont pas gérés.
Et ça gêne beaucoup de gens d'entendre que c'est la minorité.
Ils ne sont pas gérés. Et il y a deux choses, c'est que les services de police et de justice sont débordés. Ils sont débordés parce qu'il y a aussi des politiques aussi qui sont orientées peut-être au détriment d'autres faits, et notamment la délinquance juvénile. Et quand vous avez des services de police et de justice qui, même sur le traitement de la délinquance des mineurs, sont eux-mêmes débordés, alors qu'ils ne représentent que 3% ces mineurs qui posent problème, que 3% des jeunes, eh bien c'est bien une question de dimensionnement et de politique pénale.
Alors, Joseph Mazescaron, une question à Linda Kebab.
Oui, quand je vous entends, c'est-à-dire que vous apportez un autre éclairage, c'est-à-dire sur la responsabilité des parents et ce que font les parents. C'est ce que montre d'ailleurs ce drame. Cette responsabilité, on le voit aussi aujourd'hui, d'ailleurs à l'école, où vous voyez de plus en plus de mères qui arrivent et qui agressent des enseignants. et d'une manière même de plus en plus violente. Il y a un escalade. Donc la responsabilité des parents est quelque chose qui est important. Comment on peut rendre les parents plus responsables? Est-ce que ce serait par exemple en donnant plus de pouvoir aux maires pour que les maires, par exemple, aient un levier et un moyen de pression
MAIRE, bien sûr.
Sur les logements sociaux ou sur le reste.
Alors,
est-ce que c'est une possibilité?
L'épée de Damoclès, elle est toujours nécessaire. C'est-à-dire que souvent, ce qui permet que les gens ne passent pas à l'acte, c'est la peur du gendarme. Donc cette épée de Damoclès, elle est nécessaire, qu'elle soit sociale, économique ou judiciaire. Néanmoins, elle ne répond pas à tout. Vous avez parlé des professeurs, mais vous avez les entraîneurs de sport aussi, de foot notamment, qui parlent de la violence des parents qui sont convaincus que leurs fils sont Kylian Mbappé et qui veulent impérativement que leur enfant joue tel jour J. Et sinon, l'entraîneur se prend une rouste. Et donc, en fait, on a une montée de la violence chez les parents, avec le sentiment peut-être que, je suis pas sociologue, mais nous, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus dans le discours des parents, on a le sentiment un peu d'une politique de l'enfant roi en intrafamilial et un déni permanent de la possibilité que cet enfant puisse dévier. Et malheureusement, souvent, il dévie aux côtés du parent. Donc, des leviers supplémentaires aux maires des communes, je pense qu'ils ont assez de travail comme ça. Je pense que plutôt, il faut donner plus de moyens à l'État. Je pense que c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité. C'est pas seulement les collectivités locales. Et il faut donner aussi des moyens à l'éducation nationale. Peut-être abaisser le nombre d'élèves dans les classes, réaugmenter les moyens dans les zones d'éducation prioritaire, augmenter les effectifs qu'on a réduits aujourd'hui à peau de chagrin, notamment les effectifs qui permettent d'accompagner des familles et puis permettent aussi... parce qu'on a aussi cette politique du pas de vague dans la fonction publique, et j'en sais quelque chose, je suis fonctionnaire, permettre aussi que le pas de vague n'existe plus. On a aujourd'hui des signalements qui malheureusement passent à la trappe parce qu'il y a le pas de vague dans la fonction publique.
Vous aussi.
Oui, bien sûr, d'État.
J'aimerais juste, dernier élément à propos de Châteauroux, vous faire écouter un témoignage, celui d'une mère de famille qui s'est portée au secours du jeune Matisse et qui culpabilise de ne pas avoir réussi à le sauver. Écoutez ce témoignage.
J'ai entendu rire et crier. Donc, que j'ai regardé par la fenêtre au début, parce que j'étais quand même un peu surprise. Parce que c'est un quartier très, très calme, il n'y a rien à dire. Et j'ai vu des jeunes, mais comme ça rigolait, je me suis dit, oh, ils s'amusent. Puis quelques secondes après, j'ai entendu hurler. Et en fait, le jeune homme qui était debout la seconde était à terre. Donc, je suis tout de suite descendue aider. Le plus dur, c'est surtout qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était des coups de couteau. On pensait qu'il s'était fait agresser, mais pas qu'il s'était pris des coups de couteau. Donc on s'en est rendu compte un peu tard. C'est peut-être ça ce qu'on s'en veut aussi énormément. Parce qu'on aurait aimé faire plus pour le sauver. Donc c'est vraiment très dur.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Célia Barot et Bambagay. Éric Revel, vous avez une question à
Linda Kebab. Oui, une réflexion qui débouche sur une question. Vous avez parlé, dans le cas de Châteauroux, d'une ville tranquille, avec des mineurs isolés, avec des Afghans qui recherchent un asile politique qu'on peut comprendre puisqu'ils fuient les talibans de leur pays. Vous avez vu qu'avec le nouveau pacte asile et migration qui a été paraffé par le Parlement européen, dorénavant, les pays européens devront répartir des quotas de migrants, et notamment, justement, dans des villes plutôt tranquilles. D'où la réaction du maire d'Orléans récemment. Comment est-ce qu'on va faire pour intégrer des gens qui n'ont pas forcément la même culture, qui ne partagent pas forcément la même valeur sur ce que c'est qu'un être humain ou une vie, et éviter que ce genre de phénomène se multiplie?
Linda Kebab.
Ce qu'il y a de particulier avec cette immigration-là, c'est une immigration qui est issue d'une guerre, en fait, de conflits. Parler de la Libye, de l'Afghanistan. Donc c'est beaucoup de personnes qui, et c'est le cas notamment pour beaucoup de jeunes qui passent à l'acte et qui sont issus de la communauté afghane, des gens qui ont vu l'horreur, qui ont vu la guerre, qui ont connu la guerre, qui ont parfois traversé la Méditerranée dans des conditions déplorables et qui arrivent en France. Et en réalité, on n'a aucun moyen de les intégrer, c'est-à-dire qu'on ne les intègre pas. On va se dire les choses. C'est-à-dire que des moyens qu'on a pu mettre peut-être dans les années 80-70, lorsqu'il y avait une immigration subsaharienne et particulièrement maghrébine, alors quand même il y avait du monde, il y avait des moyens qui étaient mis en œuvre et qui permettaient peut-être de faire en sorte que la majorité des enfants de ces immigrés-là deviennent des Français à part entière.
Donc il ne faut peut-être pas les laisser rentrer.
Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne met plus ces moyens. Donc on doit faire un choix. Soit on les accueille, mais on les accueille et on fait en sorte que le communautarisme n'existe pas. C'est les parents, ces parents-là qui n'ont pas, en effet, les codes éducatifs européens, les aisés coûte que coûte, degré ou de force, soit on les accueille pas. Sauf qu'en fait, on les accueille et on met pas en place ce type de mesure. Je vous dis très sincèrement, ça ne peut pas donner de bons résultats, puisque de toute manière, toute intégration qui est mal faite va forcément générer des faits délictuels ou criminels.
Linda Kebab, j'ai encore une question concernant ce qui se passe dans les facultés, que ce soit à la Sorbonne ou Sciences Po à Paris, avec des manifestations pro-palestiniennes, des policiers qui interviennent dans le calme à chaque fois, et vraiment, il faut le dire, et à Sciences Po et à la Sorbonne, pour faire évacuer les lieux. Est-ce que, selon vos informations, il n'y a que des étudiants dans ces rassemblements ou est-ce qu'il y a des militants politiques, tout simplement, voire des activistes violents?
Vous savez, ce type de cause va forcément générer des envies de la part de ces punaises de lit qui viennent pourrir toutes les manifestations, quelle que soit la cause, hein, qu'on soit pour ou pas pour, c'est pas le sujet. Les membres du Black Bloc, vous savez, ces gens qui sont complètement nihilistes, qui sont libertaires, qui se fichent complètement autant des Palestiniens que des migrants, que de la retraite, et qui de toute façon viennent s'immiscer dans les cortèges et qui pourrissent tout. Évidemment que à Sciences Po comme ailleurs, quand vous avez des faits de violence, quand vous regardez dans le détail les images, c'est la policière qui vous parle, on constate toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas trop le profil étudiant, mais plutôt le profil Black Bloc. D'ailleurs, à 2 jours de la manifestation du 1er mai, on peut imaginer qu'il y aura un cortège pro-palestinien. Et à ce moment-là, on aura du Black Bloc qui viendra tout simplement pour caillasser du policier. Hein. Ils sont là, ils défendent rien de toute façon, ces gens-là. Ils sont là juste pour détruire l'État et sa représentation. Et accessoirement, pourrir toutes les revendications. Ils ont même réussi à tenter de pourrir la lutte contre la réforme des retraites. Donc, accessoirement, vous allez forcément avoir, en particulier même dans les universités, parce que le filtrage n'est pas parfait, particulièrement dans ces conditions-là, vous allez forcément avoir des personnes qui s'immiscent et qui commettent des actes contre les
policiers. Avec le travail de la France insoumise, qui tente de souffler, comme toujours, du feu sur les braises et d'attiser la haine mais, contre tout le monde.
Mais malheureusement, vous allez avoir une France insoumise qui est prisonnière de son discours anti-police et qui, de facto, plutôt que d'écarter les éléments perturbateurs, violents, etc., pour tenter au moins de sauver la cause qu'ils prétendent défendre, eh bien, malheureusement, ne peuvent pas. Ils sont prisonniers de leur discours. Donc, ils sont obligés de se positionner contre la police. Vous l'avez dit vous-même en début de propos, les policiers reçoivent des instructions, il y a des doyens qui demandent à ce que les sittings soient évacués. Ils font leur travail, point. Ils travaillent au service de la République. Et avec beaucoup de neutralité. Donc du coup, à partir du moment où vous êtes au sein de la France insoumise et que vous dites en permanence que la police est du mauvais côté, quand bien même la police agit justement, c'est ce qu'elle fait, eh bien vous êtes obligé de prendre parti pour les personnes violentes, en l'occurrence les membres du Black Bloc.
Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1. Merci Eric Revel, José Pascescaron, Louis de Ragnel. À partir de ce soir, on va retrouver tout de suite sur Europe 1 Pierre de Villeneuve pour une nouvelle formule d'Europe 1 Soir. Bonsoir Pierre, ravi de vous retrouver en direct pour un nouveau 19h-21h, c'est bien cela ?
Exactement, bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Europe 1 Soir, ce sont 2 heures de décryptage, de débat autour de l'actualité brûlante jusqu'à 21h avec les invités et bien sûr les voix d'Europe 1.
Merci beaucoup Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et sur CNews. Bien sûr, vous avez rendez-vous avec Christine Kelly et Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.